Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour les copains, ça va? C'était bien l'ambiançage sur la musique, j'ai l'impression. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Est-ce que ça va? Petit stream du mercredi, tranquille, en pilou-pilou. On va parler plein de trucs, hein. On va faire une FAQ politique. Et comme je vous l'avais promis, on va faire un point d'étape sur le financement de Baxit à partir de 16h, je pense, tranquille. Mais d'ici là, on va discuter, quoi. Il a l'air confortable, ce hoodie. Il est très, très confortable. Il tient très, très chaud. D'ailleurs, je vais même probablement le retirer au bout d'un moment, tellement il tient chaud. Et c'est le hoodie. Enfin, c'est pas un hoodie, une espèce de. Je sais pas quoi. Spécial Twitch qui avait été offert aux participants du The Event il y a 3 ans. Voilà. Tous les participants du The Event s'étaient vus offrir ce cadeau par Twitch. Bonjour depuis Bruxelles. Salut, ça va à Bruxelles? J'en profite pour râler, j'attends ma carte Baxit. Elles arrivent, on est en train de les faire. Je suis absolument désolé, je vous dois des excuses. On a pris du retard sur ces cartes Baxit. Mais vous allez les recevoir. L'idée est très cool. L'idée de quoi? Du pilou-pilou? Ouais, c'est une excellente idée. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour tout vous dire, je suis en train d'essayer de changer de caméra aussi. On verra si j'y arrive. Parce que là, celle que j'ai, elle prend beaucoup trop de place. Je suis à genre 1 mètre du mur, tellement le pied de la caméra prend de la place. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartes directement si on vient dans le public de Baxit? On en parlera tout à l'heure de tout ça, mais oui, a priori, ça peut être une option, ouais. Si ça peut nous faire économiser le frais de l'envoi par la poste, honnêtement, on verra, j'ai pas la réponse. Si t'y arrives techniquement ou financièrement? Financièrement. Top, je serai là jeudi. Alors jeudi, tu l'auras pas, elles seront pas encore là, à ma connaissance. Mais voilà, d'ailleurs, Baxit, je vous rappelle que dans Baxit, vous pouvez prendre des places pour venir dans le public. Ça coûte 35 €. Ça participe aux frais de financement de l'émission pour venir dans le public. Il y a un tarif réduit à 20 € pour ceux qui peuvent en bénéficier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par ailleurs, il y a aussi des places qui sont réservées au club Baxit. Quand vous faites partie du club Baxit, vous avez plein d'avantages. Et l'un des avantages, c'est la possibilité de venir dans le public en dernière minute. Et là, du coup, les places ont été ouvertes pour le club Baxit. Elles sont parties en moins d'une heure. Donc c'est cool, ça veut dire que ça marche. Il y a des gens dans le club Baxit qui sont chauds pour venir, voire revenir. Quoi de neuf en actu politique? En actu politique, quoi de neuf? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a le budget, le projet de loi de finances. Il y a aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a la loi asile-immigration. Il y a la loi plein emploi qui a été votée. Je pense venir dans le public au printemps une petite semaine sur Paris. Bah très bien. Toujours pas de chauffage? Non, toujours pas de chauffage. Ça va arriver. Début novembre peut-être, je sais pas. Comment va le petit chat? Le petit chat va bien. Elle va bien, elle vous embrasse. Elle ronronne pas, mais je suis sûr qu'elle vous embrasse. Le club Baxit, c'est un peu comme le nouveau club Dorothée. Ouais, on a un peu mieux. Parce que nous, il y a des nems et de la bière. Quand même, je suis pas sûr qu'au Club Dorothée, ils offraient ça aux enfants. J'espère pas. Vous avez vu que Pierre-Louis Bras était débarqué aujourd'hui. Oui, Pierre-Louis Bras, c'était le président du Conseil d'orientation des retraites, qui était en poste depuis 9 ans, et il a été débarqué aujourd'hui par le gouvernement, parce que c'est une nomination gouvernementale, et il a été débarqué notamment parce que Matignon lui reproche de ne pas avoir joué son rôle. Pendant le débat sur la réforme des retraites, le rôle du corps étant en principe d'éclairer les débats. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est une organisation qui est créée avec le seul et unique but d'éclairer et de faire des calculs pour voir les prévisions sur notre système de retraite par répartition. Donc le but, c'est de rendre un rapport chaque année en disant voilà où on en est, voilà quelles sont les perspectives en fonction de différents critères, de différents trucs, machin. Et en l'occurrence, Pierre-Louis Bras avait expliqué dans une audition à l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites qu'il n'y avait pas de dérapage des dépenses. Puis ensuite, le COR avait expliqué que si, si, il y avait quand même des dérapages de dépenses. Et puis ensuite, le rapport a rendu. Donc, en gros, que la réforme n'était pas nécessaire. Et ensuite, il a rendu un autre rapport disant que la réforme n'était pas suffisante. Donc, le gouvernement a dit, bon, ça va 5 minutes. Le Conseil d'orientation des retraites ne. D'ailleurs, je me souviens que beaucoup de journalistes aussi avaient dit ça à l'époque, hein. Il y a eu pas mal de papiers de journalistes qui avaient examiné ça et qui avaient dit, mais en fait, le problème, c'est que le Conseil d'orientation des retraites, si son rôle, c'est d'éclairer les débats, il éclaire que dalle. Là, il fout le brouillard à tout le monde. On comprend rien. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites, on peut le lire de toutes les manières possibles. Et rappelez-vous, on avait fait l'exercice sur la chaîne d'essayer de lire le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et ce qu'expliquait très bien le rapport, le COR lui-même, c'est qu'en fait, c'est impossible de faire des prévisions fiables. Parce que la santé financière d'un système par répartition dépend de facteurs extrêmement volatiles. Le taux de croissance, par exemple. La productivité. Des trucs sur lesquels tu peux faire des tableaux à 10 ans, mais est-ce que quelqu'un dans le chat est capable de me dire quel sera le taux de croissance de la France en 2037? Bah, on n'en sait rien. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid, comment ça a joué des tours à tout le monde. Comment ça a pu passer d'un pas utile à pas assez, il y avait les bons chiffres. Bah, en fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est qu'avec les chiffres que tu as, en fait, il y a tellement de paramètres que c'est extrêmement difficile de. C'est vraiment un travail de divination, quoi. Donc peut-être qu'au lieu de débarquer Pierre-Louis Bras, que je connais pas, hein, pour qui j'ai aucune sympathie, je m'en fous, peut-être que le gouvernement aurait pu reconnaître qu'en fait, on ne peut pas faire de calcul à l'avance sur la santé financière d'un système par répartition, vu la quantité de. Ouais, il y a la natalité aussi, t'as raison, il y a la natalité. Il y a le taux de chômage. Est-ce qu'on est capable de dire quel sera le taux de chômage dans tant d'années? C'est vachement dur. En gros, c'est un peu comme demander à un plombier de déboucher un effet avec un coton-tige. Je suis pas sûr de la comparaison. Là, on parle d'exercice de prévision. Les élus demandent des statistiques de prospective, même dans les collectivités, comment piloter son prospective. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un enjeu central, hein, en politique. Comment tu peux mener des politiques publiques sans connaître à peu près vers quoi tu te diriges? Et c'est un enjeu. Après, il y a des stats que tu peux quand même, par exemple, sur l'augmentation de la population dans une ville, c'est quelque chose que tu peux un peu anticiper, tu peux prévoir. Tu peux prévoir raisonnablement. Les trajectoires sur le logement, tu peux prévoir parfois quelques trajectoires sur la pauvreté. Ça sous-entend que c'est un problème politique et pas mathématique. Oui. Perso, c'est une honte le renvoi du président du Conseil d'orientation des retraites, on fait la leçon à Poutine. Ah mais ça n'a rien à voir, hein, le Conseil d'orientation des retraites n'est pas une ONG. Pas du tout, c'est un organisme gouvernemental. Donc oui, le gouvernement décide de qui dirige les organismes gouvernementaux. L'objectif, c'est de produire des scénarios et invoquer ces scénarios pour faire des choix. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce que fait le rapport du COR, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, que je vous invite à lire. Hein, c'est un document PDF. Je crois que les 20 premières pages, le COR commence par expliquer pourquoi c'est impossible de faire des scénarios. Et ensuite, il fait des scénarios en disant, bon. Puisqu'on a quand même fait des scénarios, on a pris ce qu'on appelle des hypothèses de travail et on a fait des calculs, on a fait des simulations de calcul à partir de ces hypothèses. Jean, j'avais une question parce que j'en comprends pas l'intérêt. C'est quoi une proposition de résolution? Alors, une résolution, c'est un texte déclaratif par lequel une assemblée, un organisme, arrête une position. Ce n'est pas un texte qui entre, qui, ce n'est pas un texte qui produit des effets de droit direct. Ça s'appelle une loi ou un décret. Une résolution, c'est nous, le conseil d'administration de machin, disons que. Alors, c'est très utile en diplomatie, notamment quand il y a des résolutions à l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple. Les Nations Unies arrêtent des positions communes. via des résolutions. Après, en droit français, il existe, enfin en politique, il existe la possibilité de faire adopter des résolutions par l'Assemblée nationale. Mais une résolution, ça n'a pas d'effet. Ça a un effet politique, parce que ça permet d'arrêter une position à un instant T, mais ça n'a pas d'effet de droit. Donc plutôt que de voter des résolutions, par exemple, plutôt que de voter une résolution qui dit nous, Assemblée nationale française, sommes contre la pauvreté, eh ben, les députés, ils votent plutôt des lois pour réduire la pauvreté. Bon, en l'occurrence, ils ne le font pas, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies en prend au-dessus? Ouais, le Conseil de sécurité aussi prend des résolutions. Est-ce qu'il y a une différence entre une résolution européenne et une résolution au Parlement? Tu veux dire en France? Non, dans les deux cas, une résolution, c'est une résolution. C'est bien gentil, mais ça change pas grand-chose. Mais attention, je ne dis pas que c'est inutile, hein. Politiquement, ça peut être utile, dans un procédé, un processus, de voter des résolutions. Au niveau municipal, et au niveau régional et au niveau départemental, dans les collectivités, on appelle ça un vœu. Ça existe. Le conseil municipal peut voter un vœu. C'est-à-dire que nous émettons le vœu que. Donc parfois, ça peut être, je sais pas, un vœu pour défoncer la préfecture qui a fait n'importe quoi. Ça peut être un vœu pour on émet le vœu que le gouvernement se bouge le cul. Tu vois, ça peut être ce genre de truc. Salut, j'adore ton sweet pilou, tu l'as acheté où? Je l'ai acheté nulle part, il m'a été offert par Twitch, comme à tous les participants du The Event, il y a 3 ans. Enfin, il y a 2 ans. Une sorte de note d'intention. Ouais, c'est une sorte de note d'intention, c'est ça. Merci Bibeux pour ton resub. Merci beaucoup. Après, je suis en train de réfléchir, hein, mais les résolutions des Nations Unies, elles ont quand même plus d'impact. Parce que dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, peut être décidée une action concertée des différents États sur un territoire ou sur un domaine donné. Donc une résolution dans le cadre des Nations Unies peut avoir un effet de droit, mais c'est contractuel. Le droit international est très contractuel, il est régi par des traités, c'est-à-dire que ce sont des acteurs souverains que sont les États-nations qui prennent des résolutions et ils s'y tiennent parce qu'ils s'y sont engagés, mais il y a le principe d'effet mutuel, enfin tu vois, c'est un peu comme un traité international, quoi. Ça sert à quoi de donner une opinion sur un sujet sur lequel tu n'as pas forcément de pouvoir en gros? Bah, tu remarqueras que ta question, elle s'applique aux collectivités locales qui adoptent des vœux, mais elle peut s'appliquer à n'importe qui. Moi, à ma petite échelle, j'émets le vœu que le réchauffement climatique s'arrête. C'est bien gentil, mais enfin, j'ai pas le pouvoir de le faire arrêter. Les résolutions de l'ONU impliquent un positionnement des États. Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'utilité, elle est d'ordre politique, parce que faire passer une résolution au niveau des Nations Unies, c'est forcer les États membres des Nations Unies à se prononcer sur le sujet. Et vous savez comme moi qu'il y a parfois des sujets sur lesquels il y a des camps politiques ou des États qui préféreraient ne pas avoir à se prononcer. Donc ça peut avoir cette utilité-là. Salut Jean, tu m'as l'air un peu usé par l'actualité, je te sens un peu énervé. Oh, énervé moi? C'est vrai? Non, je suis un peu fatigué, mais enfin, franchement, ça va. Qu'est-ce que Macron est allé faire en Cisjordanie? Bah, il t'aura peut-être échappé qu'en ce moment, en Palestine et en Israël, il se passe deux, trois choses. Non? Enfin, moi, ça me paraît pas aberrant que le président de la République se déplace en Palestine en ce moment. À l'ONU, il y a aussi une hiérarchie entre les résolutions de l'Assemblée générale qu'on peut appeler recommandations et le Conseil de sécurité dont les résolutions sont bien plus considérées. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un vœu peut matérialiser un comportement tant que, en tant que preuve, cela peut avoir des conséquences juridiques sur d'autres décisions. Prouver une intention ou justement une absence d'intention. Oui, remarque, t'as raison. J'essaie juste de chercher dans ma tête un exemple de tiré de mon expérience où un vœu a eu des conséquences. Je sais pas, ça me saute pas aux yeux. Macron n'a rien dit là-bas, c'est triste. En Cisjordanie? Ah bah, ou alors c'était en Israël, je sais plus, mais il a quand même déclaré, il a quand même parlé d'une coalition internationale contre le Hamas. On est quand même sur ce genre de déclaration fracassante. Ça rappelle les appels à cesser le feu. Ouais, voilà, c'est ça. Un appel à cesser le feu. Typiquement, c'est une résolution. C'est un vœu. Dans un conflit dans lequel tu n'es pas partie prenante, tu votes un vœu pour dire, moi, puisqu'on ne me demande pas mon avis, je le donne quand même, je pense qu'il faudrait arrêter la guerre. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Oui, mais en Palestine, il dit l'inverse. Alors, je suis d'accord avec toi, on en parlera probablement demain dans Backseat, mais je suis d'accord avec toi. Emmanuel Macron, il a dit un truc, ensuite ça a été démenti par l'Élysée, ensuite il a redit un truc similaire, ensuite il a dit l'inverse. Donc oui, effectivement, c'est un peu le bordel. Là, en ce moment, la diplomatie française, elle est un peu schizo. Enfin, on connaît la position de la France, elle a été rappelée lundi par Elisabeth Borne, mais le en même temps que Macron. Le en même temps de Macron, oui c'est ça, c'est le en même temps mais décalé dans le temps. Ça dépend du jour où tu lui demandes. Les Palestiniens et le Hamas, c'est différent aussi. Alors c'est différent, les Palestiniens c'est un peuple qui vit sur le territoire de la Palestine. T'en as une partie qui sont dans la bande de Gaza que contrôle le Hamas, t'en as une partie qui vivent en Israël et qui sont des citoyens israéliens, et t'en as une partie qui vit dans le territoire qu'on appelle la Cisjordanie. En même temps, c'est pas Macron qui avait viré des diplomates. Non, Macron n'a pas viré de diplomates. Macron a réformé la haute fonction publique et le corps des diplomates fait partie de la haute fonction publique. Il a flexibilisé l'entrée et la sortie. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Excusez-moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc il a supprimé le corps de diplomates pour faire des diplomates des hauts fonctionnaires comme les autres. Et il a flexibilisé la possibilité d'entrer et de sortir dans la haute fonction publique. Des citoyens israéliens, faut le dire vite, pas de mauvais esprit si tôt dans la journée. Bah, on les appelle les Arabes israéliens. Hein. Il y a une partie de la population civile qui vit en Israël qui est citoyenne de l'État d'Israël. Quels sont les recours possibles des États envers le président des Nations Unies? Israël a vraiment le droit de demander sa démission ou est-ce simplement une communication politique? Israël a le droit de demander la démission du président des Nations Unies, mais le président, d'ailleurs c'est pas le président, c'est le secrétaire général, Antonio Guterres, il est désigné, à ma connaissance, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est, faut le dire vite, mais c'est l'équivalent d'un parlement, c'est-à-dire qu'un membre peut être en désaccord, mais il faut qu'il ait une majorité avec lui pour proposer un autre nom. Donc oui, t'as le droit si tu veux de... Tu peux appeler à la démission. Je suis un peu perdu ne connaissant que très peu ce qui se dit. T'inquiète, t'inquiète, y a pas de problème. T'inquiète, mon stream est fait pour toi, y a pas de problème. Comment fonctionnent les Nations Unies? Ça, à mon avis, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde une autre fois, un peu plus spécifiquement. À l'occasion d'une assemblée générale, par exemple. Mais là, je peux pas te faire une explication vite fait sur le fonctionnement des Nations Unies. Pour le faire simple, c'est une organisation internationale dont sont membres les États qui ont ratifié le traité fondateur des Nations Unies. Tu as une assemblée générale des États, et dans le cadre de cette assemblée générale, des décisions peuvent être prises par la communauté internationale, donc. Mais tu as aussi des organismes qui dépendent des Nations Unies, qui ont été créés par le ex nihilo, par les traités. T'as l'UNESCO, t'as, je sais pas, il y a quoi d'autre? La COP? Les traités internationaux sur le climat, se font dans le cadre des Nations Unies. Si la hesse aux US se poursuit et que la prochaine deadline arrive sans speaker, est-ce que tu le couvrirais? Non, non, le problème c'est que je me sens pas du tout de couvrir la politique américaine. Ça demande un niveau de connaissance très fin sur le fonctionnement, sur les personnes, sur leur positionnement. Et moi, je suis ça d'assez loin. Malheureusement, on atteint les limites de ce que je peux faire. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, bien sûr, dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie. Il y a l'Organisation mondiale du commerce. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a plusieurs trucs. L'UNICEF. Non, l'UNICEF, c'est une ONG, si je dis pas de bêtises. C'est pas une organisation des Nations Unies. Le Fonds monétaire international, je ne crois pas que... La Banque mondiale et le FMI, je ne sais pas si c'est sous l'égide des Nations Unies. Non, l'UNICEF, c'est l'ONU? Ah bah je me trompe alors, l'UNICEF, c'est l'ONU, autant pour moi. Parce que je pensais à l'UNESCO. Ah non, mais l'UNESCO, c'est pour la culture. L'UNICEF, c'est pour l'éducation. Non, mais non, mais oui, non, mais bien sûr, maintenant que vous le dites. Non, maintenant que vous le dites, non, bien sûr, vous avez raison, c'est vrai. Ouais, c'est le fonds des Nations Unies, le Fonds international des Nations Unies pour l'éducation, pour l'enfance et l'éducation. Et le FMI et la Banque mondiale, ça fait probablement aussi partie des traités ratifiés dans le cadre des Nations Unies. Mais parfois, je fais exprès d'utiliser la vulgarisation quand je parle des Nations Unies en vous disant, les Nations Unies, ce n'est rien d'autre qu'une table de réunion. Et évidemment, c'est un peu provoque de ma part, mais ça permet de vous faire comprendre qu'en matière de droit international, il n'existe pas d'autorité supérieure au-dessus des États pour forcer les États à faire des trucs. L'ONU n'est pas un pays. L'ONU n'est pas un État. L'ONU n'a pas d'armée. L'ONU n'a pas de monnaie. L'ONU n'a pas de... L'ONU, c'est une table de réunion dont les États qui siègent autour de la table se sont mis d'accord pour la désigner comme table de réunion, que c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler, qu'on va faire triompher le droit international sur le rapport de force, etc. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand on me dit... Enfin, c'est normal. Parfois, il y a des gens qui posent la question, pourquoi l'ONU ne fait rien? Mais c'est parce qu'il faut bien comprendre que l'ONU ne peut rien faire. Ce sont les États membres des Nations Unies qui, dans le cadre de résolutions votées aux Nations Unies, peuvent faire des trucs. Mais l'ONU, c'est que la table. Et la table, elle ne peut rien faire. Les casques bleus, par exemple, ce ne sont pas des militaires des Nations Unies. Ce n'est pas l'armée des Nations Unies, les casques bleus. Les casques bleus, ce sont des forces d'interposition et de maintien de la paix qui sont des forces de pays membres des Nations Unies et qui sont engagés dans un conflit dans le cadre précis d'un accord de cessez-le-feu ou d'un accord de paix entre des pays belligérants. L'ONU ne peut pas envoyer des casques bleus quelque part, comme ça. J'essaye de réfléchir. C'est un peu comme l'ONU, c'est l'AG de copro. C'est une assemblée générale de copropriétaires. La copro n'agit que par ses membres. Bon, bref. Vous avez compris la vulgarisation, je pense. Vous avez l'idée en tête. Gardez ça en tête. Il me semble que seul le Conseil de sécurité peut décider l'envoi des casques bleus. Oui, et de toutes les façons, l'envoi de casques bleus ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties belligérantes. On ne peut pas envoyer un casque bleu contre l'avis d'une des deux parties qui est en conflit. Donc il faut que les deux soient d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'au préalable, il faut un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix, ça dépend. Et dans le cadre de cet accord, les Nations Unies se portent garantes de l'accord et des pays membres des Nations Unies envoient des militaires sous casque bleu pour faire respecter l'accord. Mais le mandat des casques bleus s'arrête à l'accord. C'est pour ça d'ailleurs que les casques bleus sont ce qu'on appelle une force de maintien de la paix. Les casques bleus n'ont pas d'opération spéciale, ils ne mènent pas de bombardement, ils ne mènent pas de. Ils n'envoient pas des soldats dans des tranchées se battre et tout. En fait, ils envoient des soldats pour qu'on ne se batte plus. Salut Jean, à quoi sert le parti de gauche? Parti de gauche est un parti politique dont les membres déterminent ensemble l'utilité, en l'occurrence soutenir et défendre les idées portées par la France insoumise. Mais un parti n'a d'utilité que dans ce qui est reconnu par ses membres. Vous savez, je vous avais déjà expliqué, mais je le referai avec plaisir. Un parti politique, c'est rien d'autre qu'une association. C'est une assoce. Ce sont des membres qui cotisent pour être ensemble. Mais c'est une association un tout petit peu particulière parce que le but d'un parti politique, c'est d'élaborer des propositions dans le débat public et de présenter aux élections des candidats pour porter et appliquer ces propositions. Voilà. Ça existe toujours le parti de gauche? Je pensais que ça avait été dissous. Je crois que la cellule parti de gauche existe toujours, si, si. Elle fait partie. Le parti de gauche fait partie des différents partis qui ont créé la France insoumise. Et c'est pas les seuls. Le but, c'est surtout de trouver du taf et d'en faire un métier. Bah écoute. Disons qu'il y a plus ou moins de succès pour ça, parce que je veux dire, le parti de gauche, je ne sais pas quelles élections ils ont remportées. Hein. Le NPA, c'est pareil. Hein. Je me permets de vous déconseiller de créer un parti politique si votre objectif, c'est de trouver du boulot. On va le dire comme ça. Bon courage, sinon. Le gars qui colle des affiches, je suis pas sûr que ce soit son taf. Ouais, non, c'est sûr même. Bonjour, hein, si vous nous rejoignez, bienvenue, bienvenue. On fait ce petit stream tranquille le mercredi après-midi. C'est une FAQ politique, donc c'est un format. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis quelques semaines maintenant parce que j'ai été un peu malade et tout. Donc la FAQ, c'est un format d'émission dans lequel je vous propose d'essayer autant que possible de répondre à vos questions sur la politique. Alors c'est très large et c'est fait exprès que ce soit très large. Si je peux vous aider à comprendre deux, trois trucs sur le fonctionnement des institutions, du paysage politique et tout, si je peux répondre à vos questions, eh ben écoutez, j'en serai très heureux. Et quand il sera 16h, je vous ferai un petit point d'étape, un bilan d'étape sur le financement de l'émission Backseat, comme je m'y étais engagé, et dans un effort de transparence, n'est-ce pas? Faux, le PS engage des prestataires externes pour coller leurs affiches, donc c'est son boulot là du coup. Genre le PS, il paye des prestataires, je suis pas d'accord. T'es sûr, Usul, de ça? Peut-être dans certaines circos, ouais, j'en sais rien. Mais par contre, c'est vrai que ça existe, hein. Il y a des partis politiques qui payent des prestataires pour les coller des affiches. Ça existe. Ça explique aussi le prix de la campagne d'amont. Ah ouais? Non. Ils ont fait ça? Alors après, attends, on parle du collage d'affiches sur les panneaux électoraux? Ou on parle du collage d'affiches sauvages sur les pylônes le long des routes? Il n'y a plus de force militante. Non mais remarque, t'as raison. Hein. T'as raison. Surtout le PS. Hein. Le PS qui est un peu la caricature de lui-même. Le PS, c'est un parti d'élus et de collaborateurs d'élus. Autant dire que c'est pas ceux qui aiment bien se foutre de la colle sur les doigts. Non mais c'est vrai en plus. Ah bah ça, il faut de la force militante hein, pour coller des affiches. Après, le collage d'affiches en politique, Moi, j'ai toujours considéré que c'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui frappent aux portes. Ça n'a pas vraiment pour but de gagner des électeurs, ça a juste pour but de faire croire aux mecs qui collent des affiches qu'ils servent à quelque chose. Je suis très médisant. Mais bon, franchement. Le mépris. Bah, c'est pas du mépris. C'est qu'il y a des méthodes militantes qui ont plus de. Enfin, je vais le dire différemment. Jamais je n'ai vu la différence électorale entre un parti qui a collé des affiches et un parti qu'on n'a pas collé. Renaissance, par exemple. La République En Marche, à l'époque, ils ont fait élire Emmanuel Macron président de la République. Ils n'ont pas collé d'affiches. Hein. C'est des start-upers, ils n'aiment pas non plus mettre de la colle sur les doigts. On a peut-être eu quelques-unes, il y aura peut-être eu quelques-unes des affiches collées. Mais ils ont fait le Tour de France à l'époque. Ils ont fait le Tour de France pour frapper aux portes et demander aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans notre programme. Regarde le NPA, on a plein de belles affiches et on n'est pas élu. J'allais dire start-up, les affiches n'ont pas un impact sur le vote. Mais ouais. Et ils se sont achetés des logiciels statistiques pour identifier les portes à toquer. Ouais, exactement. Notamment le logiciel Nation Builder, qui a été mis en place par les équipes de Barack Obama pendant sa campagne de 2008. Bientôt des affiches Brexit. Oh. Oh non. Après, c'est la même chose que la pub pour Coca-Cola. La pub n'aura pas ou peu d'impact sur la consommation, mais donne une image à la marque. Ouais, mais alors du coup, ouais, je sais pas. Après, c'est mon. Vous avez compris que j'ai un tropisme assez critique vis-à-vis des affiches militantes. Je sais pas, c'est une affiche collée à la sauvage sur un mur qui pue la pisse. Ça donne une bonne image à un parti politique. J'arrive pas à savoir. Je sais pas. Moi, je suis comme vous, hein. Je vois des affiches qui sont collées le long du périph', sur le bord des départementales, etc. Sur des transformateurs électriques. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Les gens les déchirent et ça se délave. Bah ouais, c'est pour ça, une affiche toute délavée, à moitié déchirée. Si le positionnement de ton parti, c'est d'être en rupture ou en critique du système, ça peut passer pour un acte de résistance. Ok. Ouais, peut-être. Ça affirme une présence militante. Bah ouais, oui. Alors ça, oui, ça affiche une présence militante, ça c'est vrai. Mais électoralement, c'est pas dans les urnes. Dans les urnes, j'ai rarement l'impression que ça fait la différence, quoi. Attendez, bougez pas, j'ai un appel. Excusez-moi, j'ai une livraison de colis. Ça tombe toujours pendant mes streams. J'arrive, hein. Profitez-en pour vous abonner.
bon, je suis là.
Ah, Sloubi 30. Désolé, désolé. Alors, attends, j'avais... Oh non, ça me fait chier. Je le ferai tout à l'heure. Ça me saoule. Bon, de retour. Est-ce que tu sais un peu où ça en est de la loi pour la généralisation de la notion de viol aux européennes? Je sais pas du tout. Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Je sais pas du tout. Essaye de checker sur des articles qui en parlent. C'est quoi cette histoire de Sloubi? Oh, c'est une tradition qu'on a piquée à Mister MV, qui consiste à jouer à chambre Sloubi à chaque fois que le stream plante ou que le streamer plante. Voilà, c'est tout. Un petit point sur les européennes qui arrivent tranquillement en jeu, force en présence. Je suis toujours un peu paumé sur les groupes européens dans tous. Écoute, on va faire des émissions backseat spéciales sur les élections européennes. Les élections européennes, elles auront lieu l'année prochaine. Et en amont, du coup, des élections européennes, on va faire des émissions backseat un peu spéciales. On va faire des émissions en partenariat avec le Parlement européen. Donc, tu auras, si tu suis l'émission backseat, tu auras toute l'opportunité d'y voir plus clair. Et tu peux regarder la série Parlement, oui, effectivement. Il y a déjà des affiches vivement le 9 juin de Bardella dans mon village. Ah ouais? Jordan Bardella? Il est tête de liste, Jordan Bardella, pour les européennes. Une émission spéciale européenne co-présentée avec Xavier Lacaille. Je pense pas que Xavier Lacaille, ça l'amuse de présenter une émission. Ça sent Manon Aubry dans Backseat. Et bah si, elle est déjà venue, déjà. Et puis si elle est tête de liste, on pourra la recevoir à nouveau, ouais. Ok, merci pour la réponse. Parlement, c'est quelle plateforme? C'est France Télévisions, c'est France TV Slash. Parlement, c'est une émission que je vous invite à regarder. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est une émission, c'est une série qui en est à sa 3e saison. Et c'est une très très bonne série, très drôle, très bien écrite, qui se passe au Parlement européen. Et vous suivez le parcours d'un jeune assistant parlementaire qui s'appelle Samy, qui ne connaît pas grand chose et qui débarque, comme vous, au Parlement européen. Et qui va rencontrer plein de gens. C'est une série fiction ou un documentaire? C'est une fiction. C'est une fiction humoristique, mais qui a été tournée au Parlement européen à Strasbourg. Bon, désolé, en fait, ça me démange trop. Hop. Alors. Oui, c'est ça, c'est que des conneries. Du dessicateur pour le chat. Un clavier gaming pour mon setup Flight Simulator. Des lames de rasoir. Et d'autres trucs. Hop. Et ouais, je me suis acheté un nouveau clavier pour mon setup Flight Simulator. Parce que celui que j'ai en ce moment, il est trop loin de moi, donc j'en ai besoin d'un plus petit. Une nouvelle caméra, non. Non, pas une nouvelle caméra. Hop. Regardez comme il est tout beau le clavier. Parfait. Hop là. Est-ce qu'il est RGB? Je crois, ouais. Je crois. C'est un clavier mécanique. Assez classique. Et surtout, c'est un clavier court. C'est un petit clavier. Et c'est ça dont j'avais besoin. Il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal du tout. Eh bien, je vais tester ça. D'ailleurs, je vous rappelle que vendredi, je vais essayer de faire un live flight simulator. Parce que c'est le jour de sortie d'un hélicoptère, le H160. Et j'ai envie de le tester. J'ai trop hâte. Je regarde plein de vidéos en permanence et tout. J'ai trop trop hâte. Pardon, de quoi est-ce qu'on a parlé ? Pour les européennes, as-tu la volonté d'inviter François-Xavier Bellamy ? Même s'il n'a pas vraiment les mêmes idées que nous, je trouve que ce mec a la décence d'arriver à tenir une ligne. Alors, j'ai déjà invité François-Xavier Bellamy dans une de mes émissions. D'autre part, oui, j'ai l'intention d'inviter... Alors, je ne sais pas si ce sera François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains pour les élections européennes. Mais oui, j'ai l'intention d'inviter des représentants politiques, de partis politiques qui se présentent aux élections européennes. Je vous rappelle que Backseat n'est pas une émission qui ne s'adresse qu'aux gens de gauche pour leur dire des trucs de gauche. Ce n'est pas le projet Backseat, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Donc oui, on va continuer à recevoir des personnalités, des hommes et des femmes politiques qui viennent de plusieurs endroits différents. J'ai toujours dit que je mettais la barrière à l'extrême droite, parce que je ne veux pas recevoir l'extrême droite sur le plateau de Backseat. Mais ça ne veut pas dire que du coup, Backseat ne reçoit que des gens avec qui on est d'accord. Il y a une nuance entre les deux. Hop. Tu vas inviter tout l'arc républicain. Non mais la notion d'arc républicain, moi, elle me fume. Elle me fume parce qu'elle est utilisée par des gens qui mettent à bas le cordon sanitaire. Il y a un moment juste... Je vais pas me prendre des leçons d'antifascisme par des personnes qui font copain-copain avec les fascistes, quoi. Il y a un moment... ça va. Ça me saoule. C'est pour vendredi, le H160. Ouais, c'est vendredi, ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Quelle nuance entre une liste Rassemblement National et une liste à fond derrière Ciotti ? Eh ben, c'est une question que j'ai envie de poser à Eric Ciotti, moi. C'est typiquement le genre de question que je trouve intéressante, justement sur la fin du cordon sanitaire. C'est typiquement le genre de question que j'ai envie de poser. Et c'est pour ça que je les poserai aux personnes qui sont présentées par les Républicains. Et puis par ailleurs, le RN et les Républicains, ils ne siègent pas dans les mêmes groupes au Parlement européen. Qui défendent pas exactement la même chose. Il y a des sensibilités, notamment sur les questions de liberté publique, notamment sur les questions économiques. Et je vous rappelle quand même que l'Union européenne en matière économique, c'est quand même un chouïa plus important. Il est payant l'hélico, ouais. C'est un add-on payant, développé par Hype Performance Group. C'est quoi cette fin de cordon sanitaire ? Le cordon sanitaire, c'est une expression qu'on a utilisée pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle pour désigner la séparation très stricte entre la droite républicaine issue du gaullisme, donc issue de la résistance française, avec l'extrême droite issue de la collaboration avec les nazis. Le cordon sanitaire, alors j'en parle au passé parce qu'aujourd'hui le cordon sanitaire il semble friable, pour deux raisons. D'une part pour une radicalisation proche des thèmes de l'extrême droite du parti historique des gaullistes qu'est les Républicains, et d'autre part par une stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen qui essaye de gommer autant que possible son côté issu de la collaboration avec le fascisme et l'occupant nazi. Mais le cordon sanitaire, c'était ça. Le cordon sanitaire, c'était un refus de discuter, de tendre la main, de faire des élections ensemble sur des accords électoraux, etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord électoral entre les Républicains et le RN, donc il reste un fond de cordon sanitaire, mais il y a un rapprochement du RN et des Républicains sur plusieurs thématiques, notamment sur la thématique de l'immigration. Donc c'est ça, quand je parle du cordon sanitaire, je fais référence au fait que pendant plusieurs décennies, les gaullistes préféraient voter pour un communiste que pour un nazi ou un collaborateur du nazisme. Parce que les mouvements de la résistance, dans la résistance, il y avait qui ? Il y avait les gaullistes, les communistes et les socialistes. toute l'extrême droite collaborait, genre même les monarchistes. Alors ça dépend lesquels. Il y avait des monarchistes qui étaient contre les nazis parce qu'ils leur reprochaient d'être allemands. Ils étaient pas contre l'antisémitisme, ça leur allait très bien. C'est pour ça. Ils étaient pas contre l'anticommunisme des nazis, ça leur allait très bien aussi. Par contre, ils étaient emmerdés parce que c'était des Allemands, les mecs. Et Charles Maurras, par exemple. Les démocrates chrétiens aussi dans la résistance. Oui, les démocrates chrétiens aussi dans la résistance. Oui, c'est vrai. Donc Charles Maurras, il aimait pas Hitler. Parce que Hitler, c'était un Allemand. Et que lui, c'était un nationaliste français. Donc il disait, moi, par principe, j'aime pas les Allemands. Je préfère les Français. Merci, Okelao, pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, c'est super sympa. Merci pour les 5 subs offerts au chat. C'est cool. La résistance était très hétérogène. Oui, la résistance était très hétérogène. Et dans la résistance, il y avait des mouvements qui, après la libération en 1945, sont restés, tout en étant différents politiquement, sont restés proches dans le rejet du collaborationnisme. Donc voilà. Voilà ce que c'est que le cordon sanitaire. Et voilà pourquoi j'y fais référence. Et voilà pourquoi ça m'intéresse d'interroger les républicains sur la persistance ou non d'un cordon sanitaire. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que la cabale anti-France insoumise qui vise à écarter la France insoumise de l'arc de l'acceptable, cet anticommunisme qui refait surface, ce néo-maccartisme, pour reprendre des mots d'Usul, c'est effectivement un sujet que je trouve intéressant. Est-ce que cette nouvelle donnée rend plus proches les républicains du RN? En cas de second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, admettons, pour qui voteraient les gens de droite? Et je ne suis pas sûr qu'ils voteraient tous pour Jean-Luc Mélenchon. Loin de là. La perceuse, ouais, il y a le retour de la perceuse. J'ai un voisin qui fait des trous. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire que on est en train d'assister à une mutation du paysage politique, et c'est cette mutation qui moi m'intéresse d'interroger, de critiquer, de discuter, etc. Côté Ciotti, le choix semble déjà fait. J'en sais rien, je sais pas. C'est à lui de me l'expliquer. Moi j'ai l'impression que oui, mais c'est une impression. Et comment se placer par rapport à des personnes qui ont des discours d'extrême droite, mais qui sont dans les partis comme LR ou Renaissance, Wauquiez ou Darmanin par exemple? Alors vous avez remarqué que Darmanin en ce moment il est plus proche de la gauche qu'Elisabeth Borne. Ça, on en parlera demain dans Brexit, mais là aussi il y a du en même temps. Et le en même temps, c'est Darmanin qui dit aux députés Renaissance qu'il est pour l'article 3 de la loi asile-immigration, et Elisabeth Borne qui dit non, non, moi je suis plus sur la ligne Ciotti, faut dégager l'article 3. Bizarre, hein? C'est pour rire, pas vrai? Ah non, non, c'est pas pour rire, t'as un article du Monde entier qui a été consacré à ça, au fait qu'il y a un. Il y a une dissonance cognitive au sein du gouvernement entre Elisabeth Borne, pourtant issue de la gauche, et Gérald Darmanin sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Darmanin y est favorable, Elisabeth Borne n'y est pas favorable. C'est quoi cet article 3? L'article 3, c'est un article 3 qui va être discuté dans le cadre de la loi immigration, qui prévoit la création d'un titre de séjour pour les travailleurs dans les métiers en tension. C'est un truc qui est défendu par une bonne partie de la gauche de l'hémicycle, y compris par une partie de la majorité Renaissance, qui voit d'un bon oeil cet article et qui veut le défendre. Et la droite, les Républicains, eux, ils ont été très clairs, Éric Ciotti a été très clair, nous ne voterons pas cette loi s'il y a l'article 3 dedans. C'est une loi beaucoup trop à gauche. Je suis content de mon nouveau clavier. concernant les Républicains, c'est clairement terminer le cordon. Non, il n'y a pas d'accord électoral entre le RN et LR. C'est pas vrai que c'est terminé. Il y en aura peut-être pour les municipales, il y en aura peut-être à d'autres endroits, mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'accord électoral LR-RN. La loi sur le plein emploi, comment s'est passé le vote? La loi sur le plein emploi, ça a été voté par les Républicains et par la majorité, donc il y a eu une majorité de députés qui l'ont voté. C'est pas facile à dire LR-RN. Ouais, je suis d'accord avec toi. RNLR. RNLR. LR-RN. Je sais pas. Si j'achète un pull sur Redbubble, est-ce que ça finance toujours Baxit? Oui, mais un tout petit peu. Mais oui, ça finance. Si tu veux t'offrir un pull Baxit, tu peux le faire. Ça nous financera un tout petit peu. Mais la majeure partie de l'argent que tu vas mettre va aller dans la fabrication et dans l'acheminement de ton pull. Comment se renseigner sur les européennes? Bah, tu as plein de sites internet qui sont consacrés à ça, tu as plein d'articles dans les journaux de référence, tu as un site internet qui s'appelle Toute l'Europe, par exemple, qui est un site internet qui fait que de l'actualité européenne, qui est assez bien foutu. Après, tu as le site internet du Parlement européen qui est assez bien fait, assez pédagogue. Comment tu t'es intéressé à la politique? Moi, je suis venu à la politique par l'associatif. Alors, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 16-17 ans, il y a eu un mouvement social très important, un mouvement de jeunesse qui s'opposait au gouvernement à l'époque. À l'époque, c'était Dominique de Villepin, le Premier ministre, et Jacques Chirac, le Président de la République. Et il proposait un contrat précaire pour les jeunes. Et donc, il y avait un mouvement contre ce contrat. Le contrat s'appelait le CPE, le contrat première embauche. Donc, ça m'a intéressé à la politique. Mais en parallèle de cet engagement dans le mouvement, j'ai rencontré l'associatif. Je suis devenu responsable dans une association. Et du coup, ça m'a amené à rencontrer la politique par un autre biais que l'engagement militant, qui était par la fabrication des politiques publiques et le secteur associatif. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à vous présenter des associations. J'aime beaucoup vous présenter des associations, parce que moi, je viens de ce monde-là. Et j'aime beaucoup les assos. C'est trop bien, les assos. Mangez les assos. Mangez-en, c'est bon pour la santé. Est-ce que t'es pas un peu nostalgique de cette époque niveau politique? Non, je suis pas nostalgique. Je suis pas nostalgique. J'ai pas de nostalgie de cette époque qui était encore plus corsetée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'expression citoyenne, il n'y avait aucune velléité de participation citoyenne nulle part, jamais. Il y avait beaucoup moins de femmes en politique. Déjà que c'est pas fameux aujourd'hui, mais c'était encore moins le cas. Non, non, j'ai pas de nostalgie. Je préfère la vie politique actuellement. Non pas que je préfère le gouvernement, parce que je fais la différence entre les deux, mais je la trouve plus intéressante, plus excitante, plus enrichissante. C'était ultra violent à l'Assemblée plus que maintenant. Ça dépend. Ça dépend sur quoi. Mais il y a eu des tensions très fortes, oui, bien sûr. Après, l'Assemblée nationale n'avait rien à voir avec aujourd'hui, hein. L'Assemblée nationale, à l'époque, moi, quand je me suis intéressé à la politique, il y avait deux énormes partis. Il y avait le PS et l'UMP, qui se répartissaient à peu près 80% des sièges à tous les deux. Donc on avait des groupes parlementaires immenses. Il y avait beaucoup moins de morcellement qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de. Les écolos n'avaient pas de groupe. Ils avaient un tout petit parti. Les communistes avaient un groupe. Mais qui était pas immense. Je préférais quand c'était biparti, il y avait plus de compromis, ce n'est que contestation à tout va. Ah, c'est marrant, je suis pas d'accord avec toi. Il n'y avait pas de compromis entre les partis. Entre l'UMP et le PS, à l'époque, il y avait zéro compromis. Hein. Les mecs se faisaient la guerre. Hein. C'était matin, midi et soir. Il n'y avait aucun compromis entre les deux partis. C'était pas du tout à l'américaine où ils signaient des deals ensemble ou machin et tout. Non, pas du tout. Il y avait quelques deals sur lesquels ils se mettaient d'accord sur la réforme de l'an 2000, par exemple, sur des traités européens, sur des trucs comme ça. Non, non. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de compromis. Regarde la NUPES, par exemple. C'est un immense compromis à quatre partis. La majorité, c'est un compromis entre les macronistes, ceux qui suivent Édouard Philippe et le MoDem de Bayrou. On a une forme de coalition au pouvoir. Compromis au sein de la gauche ou de la droite, il veut dire. Bah, à l'époque, la gauche, en tout cas si on parle du Parti socialiste, il y avait d'énormes tensions au sein du parti entre plusieurs franges. Je vous rappelle qu'à l'époque, dans le même parti, il y avait Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Ils étaient dans le même parti politique. Donc je vous laisse imaginer à quel point le parti il était grand et il était divers. La NUPES reste très fragile, en témoignent les tensions avec LFI. Ouais, mais c'est pas pire qu'à l'époque où il y avait le Parti socialiste avec des motions qui s'engueulaient à chaque congrès, quoi. Quoi, vert, j'ai dit quoi? Divers. Ah, divers, ça y est, je l'ai. Oula. Pardon, j'y étais pas du tout. Pardon, pardon, pardon. Mes premiers souvenirs à l'Assemblée nationale, c'était l'Hadopi 1 et 2. Je suivais en direct les débats. Ouais, je me souviens, l'Hadopi, ouais. C'était en 2006, la loi Hadopi. Je crois. J'ai entendu sur RTL de la part d'une journaliste que LFI est perçu comme de moins en moins respectable, contrairement au RN, à cause de la position provocatrice de LFI. Vous y croyez? Alors, c'est pas une question de savoir si j'y crois ou pas, mais effectivement, cette journaliste a raison de pointer le fait que on est aujourd'hui en train d'assister à un glissement dans le débat public, dans le paysage médiatique et dans le paysage institutionnel, vers davantage d'acceptabilité du Rassemblement national, tendance Marine Le Pen, et davantage d'exclusion du domaine de l'acceptable de la France insoumise. J'en veux pour preuve la Première ministre Elisabeth Borne qui accuse la France insoumise d'être sortie de l'arc républicain. Fin de citation. C'est pour ça que je parle de néo-maccartisme, c'est le côté suce aux communistes. Donc il y a effectivement une diabolisation de la France insoumise. Après, est-ce que la France insoumise y participe ou pas à cette diabolisation? Je vous laisse maître de vos opinions. Et il y a une dédiabolisation de Marine Le Pen qui porte ses fruits, puisque Marine Le Pen apparaît comme de plus en plus respectable et acceptable. Comment on peut expliquer ce glissement? C'est compliqué. Peut-être que c'est du cynisme et du calcul, du petit calcul, de la part d'un certain nombre des acteurs. Peut-être que c'est de la facilité pour beaucoup. Mais c'est un glissement qui est un glissement qui s'opère dans l'opinion. Donc chacun est maître de son opinion, quoi. Mais effectivement, il y a un glissement qui est assez spectaculaire. Ça m'avait frappé pendant la présidentielle, notamment chez Cyril Hanouna, par exemple. Où un Éric Zemmour était parfaitement à l'aise, les pieds dans les pantoufles, à faire des interviews fleuves. Et Alexis Corbière était hué par le public dès qu'il ouvrait la bouche. Il était rejeté. Tu dis, ah oui, d'accord. Donc en fait, d'accord. Il y a clairement un camp qui est le bienvenu et un camp qui l'est pas, quoi. Les médias ont un rôle important dans l'opinion, tout de même. Bah, c'est pour ça que je viens de te citer l'exemple de TPMP de Cyril Hanouna, ouais. Il y a Vincent Bolloré qui y participe aussi, c'est vrai. Il y a Marine Le Pen qui y participe aussi, c'est vrai. Marine Le Pen a une stratégie de dédiabolisation qui consiste à être les bons élèves de l'Assemblée nationale, à être poli, bien élevé, à pas faire trop de bruit, etc. La méthode de communication de Mélenchon est comparable à celle de Jean-Marie Le Pen à l'époque, du bruit et de la polémique. Je ne sais pas si je mettrais une équivalence entre les deux personnages, y compris dans leur stratégie de communication. Jean-Luc Mélenchon, enfin remarque, oui. Jean-Marie Le Pen, c'était du national-populisme. Jean-Luc Mélenchon, c'est du populisme de gauche. Alors est-ce que du coup le caractère populiste est un truc qu'on peut leur appliquer à tous les deux en équidistance? J'en sais rien. D'ailleurs, il y a une très bonne émission sur France Inter qui s'appelle Enquête de politique qui a fait un épisode entier sur le populisme. Je crois même qu'ils ont fait 4 épisodes d'affilée ou 3 ou 4 épisodes sur le populisme. C'est Thomas Legrand qui anime cette émission, je vous invite à l'écouter. Et il a fait une émission sur le populisme. Qu'est-ce que le populisme? Le Pen joue sur la peur, LFI sur la colère. Oui, c'est assez juste. Populisme égale confronter les élites et le peuple. Macron est bien plus populiste que tous les autres. Alors, il y a une forme de populisme macronien, mais qui a un peu disparu, hein. C'était plutôt en 2016-2017 que Emmanuel Macron jouait un petit peu sur cette corde populiste d'opposition des élites et des gens et du peuple. Mais depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on ne peut pas parler d'une politique populiste. Merci Dart qui vous met le lien vers le podcast en question dans le chat. Mais de toute façon, alors je vous invite à écouter ce podcast parce que il va vous expliquer que justement la notion de populisme est d'ores et déjà une notion critiquée. Elle peut être revendiquée, elle peut être appliquée comme un opprobre sur un camp ou sur une personnalité. Elle peut être utilisée comme un mot remplaçant le mot démagogue, démagogique. Donc c'est très très débattu en fait la notion de populisme. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, dans le front de gauche de 2012, de 2012 à 2015-16, il assumait très clairement une position populiste. Même d'ailleurs, ça a continué avec les Gilets jaunes en 2018, hein. Jean-Luc Mélenchon se revendiquait du populisme de gauche, issu des travaux notamment de Chantal Mouffe, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour un populisme de gauche, et dont Jean-Luc Mélenchon s'est un temps revendiqué. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Populisme égale ce que les gens veulent entendre sans se soucier de la faisabilité. Alors, je ne suis pas d'accord. Pour moi, là, tu décris la démagogie. La démagogie, c'est dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Le populisme, c'est autre chose. Ça peut avoir des éléments démagogiques. Ça peut l'être si tu veux. Mais c'est plus une stratégie de conquête du pouvoir basée sur la réaffirmation d'une opposition entre le peuple et les élites. Le nous contre eux, voilà, le fameux nous contre eux. Il cherche des voies pour sa carrière, quitte à passer d'une idéologie à une autre. Alors, le populisme n'est pas vraiment une idéologie. Il n'y a pas de contenu programmatique à l'idéologie. C'est pour ça qu'on parle davantage du populisme comme d'une stratégie politique. Que du coup, qui peut être appliquée avec des degrés de subtilité par différents camps politiques. De Donald Trump à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Podemos, etc. Yo, je débarque. Est-ce que ça a déjà parlé du financement de Baxit? Non, ça va commencer dans pas longtemps, t'inquiète pas. On va en parler. Hollande était populiste avec son Mon ennemi, c'est la finance. Oui, si tu veux, oui, effectivement. François Hollande, pendant sa campagne en 2012, a eu des moments populistes. Nous contre eux, mais le dire en appartenant à eux, c'est toujours un mélange des genres particuliers. Tu dis ça pour qui? Pour Mélenchon? Non, Mélenchon, Il fait pas partie de l'élite médiatico-politique et économique du pays, hein. Ok, c'est un ancien. Ok, il est pas pauvre. Ok, c'est un apparatchik. Ok, il a fait carrière au Sénat et au Parti socialiste. Mais ça en fait pas un. Ça en fait pas un membre de l'élite. Entendu au sens de l'élite qu'il critique. Enfin, je pense pas. Du coup, comment Macron pourrait être populiste si c'est lui qui est au pouvoir? Macron n'est pas populiste, il a eu lui aussi des moments populistes, encore une fois je mets des gros guillemets parce qu'on peut en discuter, pendant sa campagne entre 2016 et 2017, où Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, pardon, il a joué la carte de la proximité directe avec la population, du rejet des corps intermédiaires, les syndicats, les associations, tous ces vieux trucs remplis de carriéristes et d'empêcheurs de tourner en rond et surtout d'empêcheurs de réformer. Il a eu des moments populistes, mais de la même manière que Hollande a eu des moments populistes. Pourquoi Villepin n'a pas pu aller plus loin, genre président? Parce qu'il ne s'est pas présenté à l'élection, il n'a pas réussi à obtenir les 500 signatures. Pendant la campagne, il ratissait large pour rassembler. Et ça, c'est normal. Encore une fois, c'est pour ça que je parle de moments populistes en campagne, pour différencier ce que disait Emmanuel Macron dans sa campagne et ce que fait Emmanuel Macron au pouvoir. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans tomber dans le populisme? Ça dépend ce que tu entends dans la notion de populisme. Si c'est une stratégie électorale et que tu la mets pas en place, bah non, tu tombes pas dedans. Donc voilà quoi. Du coup, le populisme, c'est faire de la démagogie avec la lutte des classes. Non, c'est plus compliqué que ça. Bah tiens, regarde le message d'en dessous en coup qui te dit le populisme, c'est une stratégie politique qui dépasse les références au clivage traditionnel, clivage de classe, syndicat, droite-gauche, homme-femme, etc. machin, pour établir des frontières plus simplistes, oligarchie slash peuple. Je suis assez d'accord avec cette définition. Et encore une fois, je vous conseille d'écouter ce podcast sur le populisme parce que justement, pendant plusieurs heures de podcast, Thomas Legrand explique, avec ses invités, que justement la notion elle-même est critiquée et discutée et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, etc. Je conseille l'ouvrage de Rosan Vallon, Le siècle du populisme, qui définit clairement et dans le détail, ce qu'est le populisme. Et ben, vous pouvez aussi lire Rosan Vallon, c'est toujours une bonne lecture, Rosan Vallon. Conseil, écoutez tous les podcasts de Thomas Legrand. Ah bah ça, si je peux vous donner un conseil, écoutez toutes les émissions de Thomas Legrand, écoutez toutes les émissions de Philippe Collin. C'est un très bon départ. Qu'est-ce qui s'oppose au terme de populisme? Bah, je sais pas. Et regardez les portraits de Blast, évidemment, regardez les portraits de Blast. Ça, franchement, vraiment, pour vous faire une culture politique, si vous regardez les portraits de Blast, les ouvrez les guillemets, si vous écoutez les émissions de Thomas Legrand et les émissions de Philippe Collin, en termes de culture politique, c'est déjà pas mal. L'élitisme? L'élitisme. Ouais. Oui, l'élitisme. L'élitisme est effectivement un opposé du populisme. Alors pour le coup, je ne connais aucun politique se revendiquant de l'élitisme. Je ne saurais pas vous dire. L'élitisme, c'est plutôt une opprobre, c'est plutôt un. Enfin, personne ne se revendique non plus du néolibéralisme et pourtant. Oui, remarque. Oui, c'est vrai. Zemmour? Est-ce que Zemmour se revendique de l'élitisme? Non, je crois pas. L'élitisme peut-il être non violent? Ça, c'est une bonne question. Bon, les copains, je voulais vous faire un petit point sur le financement de Baxit. Pardon, pardon. Donc, je vous avais dit que je vous ferais des petits points d'étape réguliers sur le financement de Baxit et je vous présente donc un bilan d'étape, une keynote spéciale présentée par Jean Massier. Bonjour à toutes et à tous, heureux que vous nous rejoigniez actuellement sur le stream. Je vous appelle à faire des dons toutes les semaines, à vous abonner, etc. Et donc, la moindre des choses, c'est que je vous fasse un petit point d'étape sur où on en est du financement de Baxit grâce à vos dons, tout ça, tout ça. Alors, en septembre, je vous ai annoncé une saison 3 de Baxit. Je voulais annoncer 50% plus longue en nombre d'émissions, 20% moins cher par épisode et 100% plus proche de vous. Vous vous en souvenez de ma précédente keynote, etc. Pour ça, pour financer cette nouvelle saison de Baxit, on a fait un choix avec mes coproducteurs et avec l'équipe de Baxit, que j'embrasse très fort d'ailleurs. On a fait le choix de miser sur le financement participatif par abonnement. Démagogie, exactement. On a fait le choix de miser sur l'abonnement pour nous permettre de pour nous permettre d'assurer le financement à long terme de l'émission, pour qu'on n'ait plus besoin de vous demander d'argent à chaque saison, parce qu'avant, pour ceux qui n'étaient pas là, sur la saison 1 et sur la saison 2 de Baxit, on avait fait des financements participatifs sous forme de cagnotte. Donc il y avait un tas d'argent qu'on avait besoin de récolter pour financer toute la saison, et là on a décidé de changer de modalité pour maintenant pérenniser grâce à un système d'abonnement, où tous les mois on reçoit une somme d'argent grâce à vos abonnements. Vous voyez la barre de dons qui est là-haut. Elle se remplit grâce à la participation et grâce à vos abonnements. Et donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. L'autre stratégie sur laquelle on s'est appuyé, mais je vais vous en reparler, c'est sur les partenariats, donc des before sponsorisés, des émissions spéciales sponsorisées. On en a déjà fait. Vous avez vu celle avec l'Humanité pour la fête de l'UMA. Vous avez vu celle avec Libération pour les 50 ans de Libé. Il y en aura d'autres qui vont arriver, des émissions spéciales qui nous permettent aussi du coup de financer la saison et de vous proposer Baxit en permanence. Enfin, en permanence, tous les jeudis. Ah non, merde, je me suis trompé. Hop. Une émission Baxit, pour vous rappeler les coûts que ça représente, une émission, c'est 13 000 euros. C'est le coût hors taxe, sinon c'est pas drôle, que représente la fabrication, la production d'une émission Baxit. Voilà comment ça se répartit. Il y a un peu plus d'un tiers du budget qui sert à payer principalement les personnes derrière la caméra, la production, le journaliste, l'assistant plateau, le chef opérateur, l'ingé son, le réalisateur, le technicien vidéo, les réseaux sociaux, etc. Bref, toutes les personnes qui travaillent sur l'émission Baxit. C'est cher. Baxit est l'émission la moins chère de toute l'histoire de l'audiovisuel. Si vous trouvez un producteur à Paris qui est capable de vous faire pour 13 000 euros une émission de 4 heures d'affilée en public avec des chroniques, avec des caméras et avec des duplex, etc., présentez-le-moi le plus vite possible. Baxit est l'émission la moins chère vraiment de Paris. 16% qui sert à rémunérer les chroniqueurs et le présentateur, c'est moi. Le matériel, la location du matériel, caméra, micro, lumière, ça représente 20%. Et enfin, tous les frais de logistique et technique, le plateau, la régie, le catering, la billetterie, etc., tous les faux frais, ça représente un quart du budget. Vous êtes combien dans l'équipe? Baxit, ça représente une petite vingtaine de personnes au total qui interviennent dans la fabrication de l'émission, en comptant les chroniqueurs que vous voyez devant la caméra et en comptant toutes les personnes dans l'ombre que vous ne voyez pas dans la caméra, les techniciens, graphistes, musiciens, etc. Bref, toutes les personnes qui interviennent à un moment ou à un autre dans l'émission. Mais si on fait le total, ça représente une vingtaine de personnes. Hop. Alors, grâce à vous, la saison 3 qu'on a commencée en septembre dernier, on a déjà fait Baxit à la fête de l'UMA, on a déjà eu le retour des créateurs comme on s'y était engagé. On a eu le nouveau jeu, donc le nouveau quiz qui n'est plus le quiz à la con, et on a eu plein de donation goals validés. Je vous rappelle que cette saison, on fait des donation goals. Tous les 1 000 euros par mois qu'on remporte, vous débloquez collectivement des bonus pour vous inciter à faire un don. Et pour vous inciter à faire un don et à vous aussi vous abonner à Baxit. J'imagine que les invités ne sont pas rémunérés. Non, les invités ne sont pas rémunérés. La différence entre un chroniqueur et un invité, c'est qu'un chroniqueur, il fournit un travail qui lui est demandé, il assure une présence qui est requise, alors qu'un invité, il vient gratuitement, et le mot gratuitement étant à la fois financièrement, mais aussi politiquement, éditorialement, etc. Un invité n'est en rien redevable de l'émission, Il n'est là que pour répondre à des questions. Il n'a en principe rien à préparer. Il n'a pas de préparation. Alors que mes chroniqueurs, eux, sont rémunérés parce que mes chroniqueurs, ils doivent venir quand on... Enfin, ils sont obligés d'être là, quoi. Ils doivent faire une réunion de préparation éditoriale. Ils doivent se renseigner, lire des articles de journaux, préparer leur émission et venir le jour J faire le travail de chronique, donc de chroniqueur dans l'émission. Hop. Et donc, du coup, le fait qu'on ne paye pas les invités, ça vous garantit à vous que les invités ne doivent rien à l'émission et ils parlent totalement librement. Par exemple, la ministre, on ne l'a pas payée, évidemment. Il y a aussi une nouveauté cette année qu'on vous a annoncée, c'est la possibilité de poser des questions aux invités via votre téléphone portable. Je vous rappelle que nous recevons Sandrine Rousseau, notre invitée politique, demain. Si vous avez une question à poser à Sandrine Rousseau, n'hésitez surtout pas à vous saisir de votre téléphone, à filmer et à nous envoyer par mail votre vidéo. Le mail, c'est backseat.rs@gmail.com. Voilà. Les 19 000 euros affichés à l'écran, c'est mensuel. Oui, exactement. La barre de dons que vous voyez en haut à gauche de l'écran, c'est une barre de dons de la somme mensuelle que l'on touche pour faire l'émission. Aujourd'hui, on touche un peu plus de 19 000 euros pour réaliser Backseat. Et je vous rappelle qu'une émission Backseat, ça coûte 13 000 euros. OK ? Ensuite, il n'y avait pas que ça. Attends. Il n'y avait pas que ça quand même dans les trucs qu'on a... Enfin, rendez-vous compte quand même que depuis le début de la troisième saison, on a déjà fait des trucs assez extraordinaires. On a aussi une émission qui commence plus tôt, à 18h30 au lieu de 19h. Moi, je prends du temps à papoter avec vous et à discuter, etc. On a le retour des créateurs en plateau. Et ça, c'est quand même plutôt très cool. On a des places moins chères. Je vous rappelle que venir dans le public de Backseat, ça coûte moins cher cette saison qu'avant. Ça, on a fait une enquête cet été auprès du public de Backseat pour savoir ce qui vous plaisait, ce que vous voulez qu'on change, etc. Donc, on a appliqué toutes les recommandations que vous nous avez faites. Et une des demandes, c'était que ça coûte moins cher de venir dans le public de Backseat. Donc, ça nous rapporte moins d'argent. Mais ça vous permet à vous de prendre un engagement financier moins important. Donc, pour venir sur le plateau de Backseat, enfin, pour venir assister à Backseat dans le public, ça coûte 35 euros et on a même créé un tarif réduit à 20 euros. Tout ça, c'est encore en cours de rodage. Évidemment, Backseat continue à évoluer. Backseat va continuer à évoluer. Vous allez continuer à voir de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux visages. On va continuer à essayer d'inventer des nouveaux jeux débiles. Backseat, c'est aussi une expérience. Et moi, je suis très content quand on profite de Backseat pour faire n'importe quoi. Attends, il est un peu faible mon micro. Là, je vais augmenter le son. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'aurais dû m'en rendre compte, mais c'est depuis hier en fait. Hop, alors, où qu'on en est ? Alors, où qu'on en est du coup sur le financement ? Pour vous faire un point sur où est-ce qu'on en est. 19 333 euros de soutien mensuel. Soit sur l'année 64% du besoin de financement. Aujourd'hui, à date, le 25 octobre, on en est à 19 333 euros de soutien mensuel. Ok ? Voici comment se répartissent vos soutiens. On vous a fait des stats pour que vous puissiez le voir. Le plus important, alors on va commencer par le camembert de gauche et ensuite on va aller vers le camembert de droite. Le camembert de gauche, c'est en nombre d'abonnés. Les abonnés qui donnent 15 euros par mois sont moins d'un quart des abonnés. Donc le club Backseat à 15 euros par mois, c'est moins d'un quart des abonnés. Ceux qui donnent 10 euros, c'est 17,5% des abonnés. Et la grosse majorité, relative, mais la grosse majorité quand même, c'est des dons à 5 euros. Et c'est très important pour moi qu'on puisse continuer à accueillir des dons à 5 euros. Ensuite, dans les divers, je crois que dans les divers, il y a ceux qui donnent moins de 5 euros. Donc c'est les 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Ok ? Et on a 2,2% des donateurs qui donnent plus de 15 euros et je le remercie du fond du cœur. Si vous regardez le camembert de droite, c'est l'argent que ça nous rapporte en proportion. Et là, vous voyez que les abonnés du club Backseat rapportent à eux seuls 7665 euros par mois. C'est notre plus grosse rentrée d'argent, c'est ce petit quart là. Ce petit quart là rapporte tout ça d'argent. Les dons à 10 euros rapportent un peu moins d'un quart et les dons à 5 euros rapportent un quart. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes peu nombreux à être dans le club Backseat mais c'est grâce à ce petit nombre que l'on réussit à avoir le plus d'argent. C'est pas tout. Je vous rappelle, puisqu'on est en train d'en parler, qu'est-ce qu'on gagne à soutenir Backseat? Si vous faites un don de 5 euros par mois, vous avez votre nom au générique de l'émission et vous avez accès à la VOD des émissions en avance, dès le vendredi matin. Vous n'avez pas besoin d'attendre le dimanche, qu'elle soit en public sur YouTube. Vous avez accès en amont à l'ensemble de la VOD. Donc ça, c'est un abonnement qui est à privilégier pour les personnes qui veulent regarder tranquillement l'émission le vendredi ou le samedi, après sa diffusion en direct le jeudi soir. Est-ce que ça comprend les sub Twitch? Non. Non, non. Les dons à 10 euros, vous avez les bénéfices précédents plus les vidéos bonus en avant-première et le débrief. Alors, les vidéos bonus, ça va arriver. C'est notamment les vidéos de making-of qu'on est en train de réaliser pour vous montrer comment est fabriquée l'émission, pour vous présenter les membres de l'équipe, etc. Elles seront données en avant-première aux membres du Club Backseat et à ceux qui donnent 10 euros par mois. Ok? Le débrief, c'est une réunion, c'est un live privé. Le débrief, c'est un live privé au cours duquel on s'adresse uniquement aux donateurs de Backseat et on leur présente l'équipe. Donc, ce n'est pas une émission Backseat, c'est plutôt un moment en visio ensemble où on répond à toutes vos questions, on discute avec vous, on parle de la programmation, on parle de l'équilibre, on parle des améliorations, on prend vos recommandations, on réfléchit avec vous, etc. Ça, c'est réservé à nos donateurs. C'est réservé à nos donateurs qui sont les seuls à avoir accès au débrief. Le débrief ne sera pas diffusé. Il n'y aura pas de diffusion sur YouTube, etc. Le débrief, c'est vraiment une réunion privée, quoi. Salut Jean, j'ai pris l'abonnement à 15 euros, mais je n'ai toujours pas reçu ma carte Backseat. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. On est en retard. Je te présente mes excuses. Ça fait des semaines que ça traîne. Tu vas à la recevoir. On va la mettre en place, la carte Backseat. Je suis absolument désolé. J'aurais bien voulu que tu l'aies plus tôt dans ton portefeuille, mais on a pris du retard. Donc oui, vous allez recevoir la carte. Et ensuite, donc à 15 euros par mois, vous avez le club qui vous donne accès à tous les bonus précédents. Et en plus, vous avez un accès last minute au public pour venir dans l'émission, assister à l'émission en direct, manger des nems et boire des bières. C'est quand même ça, c'est cool quand même comme sortie le jeudi soir. Et en plus, vous avez accès à des événements sur invitation. Ça, il y en a déjà eu quelques-uns. L'émission qu'on a faite, Démo Stream avec la ville de Paris, c'était les membres du Club Backseat qui avaient été invités. Paul and Chill, pareil, c'était les membres du Club Backseat qui étaient invités en priorité. Donc voilà. Je suis en train de bosser et j'écoute d'une oreille. Du coup, les vidéos bonus et le débrief ne sont pas encore mises en place, c'est bien ça. Il n'y a pas encore eu de vidéo bonus, mais ça va arriver. Et le premier débrief aura lieu a priori bientôt. Bah, on enverra un mail aux donateurs qui sauront la date. Mais a priori, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Et par ailleurs, les événements sur invitation, ce sont aussi des événements organisés par nos partenaires. Donc, ce ne sera pas que à Paris. Il y aura des événements qui vont être organisés sur lesquels vous pourrez recevoir une invitation quand vous êtes membre du club Backseat. Hop. Les donation goals, où est-ce qu'on en est? Alors, les donation goals, où est-ce qu'on en est? Voilà où on en est. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez la barre de dons au-dessus. On est à 19 000 euros. Quand on aura atteint les 20 000 euros, vous aurez une émission cuisine spéciale NEM. Il y a des nouveautés dans ces donation goals. Hop. Les deux trucs qui sont faits, c'est les deux émissions par mois. Jusqu'à présent, on a réussi à s'y tenir en vous proposant deux émissions Backseat par mois minimum. Donc ça, c'est cool. Le PowerPoint de 20 ans sur Thibaut InShape, le PowerPoint de Vincent sur Thibaut InShape, pardon, et les chaînes Liège des Pyrénées, il l'a fait comme il s'y était engagé. Merci à Vincent de l'avoir fait. Malek qui lit le temps des combats, ça aura lieu en novembre. Malek s'est engagé à vous lire le temps des combats en direct sur Twitch, ça aura lieu en novembre. Donc à venir bientôt. L'émission spéciale élection européenne à Strasbourg, c'est prévu. Mais on a le temps avant les européennes. Les européennes, elles auront lieu début juin, donc on a encore un peu le temps. La reprise, la cover au piano du générique de Claire, ce sera le 23 novembre. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que ce sera à l'occasion de l'émission du 23 novembre que Claire vous fera une reprise au piano du générique de Backseat, comme elle s'y est engagée. Ok? Le making-of de l'émission, on est en train de bosser dessus. Ça, c'est un truc qui paraîtra plus tard dans l'année parce qu'il faut le temps de le réaliser, etc. Mais le but, c'est de vous proposer un documentaire que vous recevrez en avant-première si vous êtes donateur à 10 euros ou à 15 euros, évidemment. Mais le but, c'est de sortir ça plus tard dans l'année. Et le live cuisine kebab avec Benoît Hamon, on est en train de l'organiser. Ok? J'ai le plaisir de vous annoncer trois nouveaux goals. Trois nouveaux goals qu'on a rajoutés. À 21 000 euros, je m'engage à faire une traversée de l'Atlantique sur Flight Simulator dans les conditions de 1927. Je m'engage à refaire le vol de Charles Lindbergh qui a réussi pour la première fois à traverser l'Atlantique de New York à Paris en avion avec un vol qui dure 33 heures. Pour ça, il faut qu'on arrive à 21 000 euros. Si vous voulez voir ça, il faut qu'on arrive au palier de 21 000 euros. Ce serait cool, hein ? On a déjà fait la traversée de la Manche. Ça, on l'a fait ensemble. Et là, je vous propose la traversée de l'Atlantique. En x2. Ah non, pas en x2. Non, non, en vitesse réelle. Deuxième nouveauté que je vous annonce aujourd'hui. À 22 000 euros, je prends un cours de boxe avec Latifa. Latifa fait de la boxe et elle m'a proposé de m'initier à la boxe, de me mettre des patates dans la tête. Je ferai donc une initiation boxe avec Latifa à 22 000 euros. Je remercie Latifa d'avoir accepté. C'est MFS. Oui, c'est MFS. C'est pas... désolé, c'est pas MFS. Voilà. Non, merde, merde, merde. Voilà. Boxe avec Latifa, etc. À 23 000 euros, je vous rappelle que, ça on l'avait déjà annoncé, on fera une émission Backseat spéciale jeu de rôle. On va faire une émission jeu de rôle avec Fibre Tigre qui a accepté. Donc Fibre Tigre sera notre host pour cette émission. Et à 24 000 euros, on fera une émission avec Usul et Host, les deux protagonistes des premières saisons d'Ouvrez les guillemets, qui seront sur le plateau avec nous. Donc voilà. Elle est où l'émission élection européenne ? Elle aura lieu plus tard dans l'année. Là, pour l'instant, la campagne européenne n'a pas encore vraiment commencé, donc on attend d'organiser cette émission plus tard dans l'année. Mais on essaye de vous faire la meilleure émission possible sur les élections européennes. Est-ce que ça vous fait kiffer, ces donation goals ? Bon, les autres, on les avait déjà annoncés, donc vous les connaissez. À 25 000 euros, on fait une émission spéciale quiz à la con. À 28 000 euros, on fait une soirée stand-up organisée par Adèle. Ça, ce sera trop cool. Et à 30 000 euros, on fait une émission Backseat-Off, où on fait une énorme giga soirée, tous ensemble. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Est-ce que ça vous fait kiffer ? Est-ce que ça vous donne envie de vous abonner, de rejoindre le club Backseat ? Surtout, n'hésitez pas. Allez-y, prenez un abonnement à 15 euros par mois. Vous aurez accès à tout ça si vous êtes suffisamment nombreux. Et j'y crois, et j'y compte, et ça va être cool ! On continue. Y a un truc qu'on n'avait pas vu venir, effectivement. C'est le fait que vous avez été des centaines à augmenter votre abonnement. Et ça, merci. Je ne sais plus si on a une slide spécifique là-dessus. Non, on n'a pas de spécifique. En fait, il y avait plein de gens, si je reviens sur les slides d'avant là, sur les camemberts, il y avait plein de gens qui donnaient 5 euros par mois et qui sont passés à 10 euros par mois. Il y a plein de gens qui donnaient 10 euros par mois et qui sont passés à 15 euros par mois. Donc ça, on est super contents, on tient à vous remercier. Ça nous indique donc que ça vous fait plaisir et que les donation goals sont les bons, et que, etc. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, vous aussi, à changer votre abonnement en passant de 10 euros par mois à 15 euros par mois, ou en passant de 5 euros à 10 euros, voire à 15 euros directement. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont augmenté leur abonnement. C'est vraiment grâce à ça qu'on arrive. C'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à financer l'émission. Dès que je retrouve du taf, je fais pareil, promis. Merci à toi, Ariane. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Donc, on continue. Hop, hop, hop. Ce qu'on n'avait pas vu venir, donc voilà. Merci du fond du cœur. Et maintenant, alors... Si on fait un prévisionnel, si on regarde l'augmentation de la courbe des dons depuis le début de la saison et qu'on trace une droite jusqu'à Noël, on arrivera à 88% de l'objectif à 30 000 euros par mois. Ok ? Je vous rappelle que le but de ce financement participatif pour nous, c'est de réussir à récolter 30 000 euros par mois, ce qui nous permet de garantir une émission chaque semaine. Si vous faites le calcul, vous dites « mais non, ce ne sera pas suffisant pour faire une émission chaque semaine ». Si, ce sera suffisant si on rajoute à ça le soutien de nos partenaires. Je vous ai dit que je ne voulais pas que Backseat repose exclusivement sur ses abonnés et sur la communauté pour financer l'émission. Je veux aussi que les partenaires participent à financer l'émission, donc les before, les émissions spéciales, etc. Si on trace une ligne jusqu'à Noël, ça veut dire qu'à Noël, on sera à 88% de l'objectif. Notre boulot à nous, c'est de parvenir à arriver à 100% d'ici à Noël. 26 500 euros, c'est aujourd'hui notre prévisionnel. Qui sont tes partenaires? Eh ben, on a eu la fête de l'UMA, on va avoir le Parlement européen, on a eu la MAIF qui a fait un bifort, je vous rappelle. C'est ça les partenaires. Et surtout, merci à toutes les personnes qui bossent sur l'émission, on vous aime. Merci beaucoup, nous aussi on vous aime du fond du cœur. Donc voilà, si on continue, un paramètre clé sera d'acquérir de nouveaux spectateurs. Et ça, vous pouvez nous y aider. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à trouver du financement pour Backseats? La stratégie, c'est de continuer à faire de la pub de l'émission pour que de nouvelles personnes découvrent l'émission. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat aujourd'hui qui ont découvert ma chaîne grâce à Backseats. Auquel cas, tant mieux. Nous, c'est sur ce public-là qu'on mise. Parce que y a peut-être beaucoup des fans de l'émission qui donnent déjà de l'argent et qui ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils donnent déjà. Donc le but, c'est d'essayer de convertir des gens. Donc je vous invite, autant que possible, à faire de la pub à l'émission, à la partager, à en parler à vos proches, à vos amis, etc. À prendre un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous écoutez ce stream à l'heure actuelle et que vous ne faites pas déjà un don sur KissKissBankBank, ben, je vous invite à le faire. Le but, c'est de convertir, d'avoir plus d'abonnés et d'augmenter. Et d'augmenter toujours le nombre de personnes qui kiffent cette émission et qui participent à son financement. J'ai converti des potes et je mets le pull Backseat pour faire de la promo. Eh bah trop bien, merci beaucoup. Je vais en parler à mon petit chat, tu as bien raison. Ma prof de français qui regarde Backseat grâce à son fils. Eh bah trop bien. Trop bien. Eh bah ta prof de français, dis-lui de s'abonner. Hop. De notre côté, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on vous prépare? Justement, ça c'est les annonces d'aujourd'hui. L'arrivée des cartes. Vous allez recevoir les cartes du club Backseat bientôt. On est en train d'y travailler, le temps de l'envoi du courrier et tout, à mon avis, il faut compter encore 15-20 jours. Vous savez comme moi comment ça peut être lent parfois de faire de l'impression et de l'envoi et tout, mais vous allez les recevoir. Si on est abo à Jean Massier, ça ne donne pas à Backseat. Non, si vous êtes abo à Jean Massier, ça ne donne pas directement à Backseat, parce que j'ai fait exprès de séparer les deux projets. Il y a ma chaîne et il y a Backseat, et les deux sont indépendants financièrement de manière à garantir la sécurité des deux projets. Autrement dit, Backseat n'a pas besoin de moi pour vivre et je n'ai pas besoin de Backseat pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix que j'ai fait pour sécuriser les deux projets. Imagine quelqu'un te donne 1 million par mois, tu ferais quoi, Backseat, tous les soirs? J'en sais rien, je sais pas. Je commencerai par mettre de côté, en me disant comment ça sécurise Backseat pour plusieurs années. Donc les cartes vont arriver. On va faire un premier débrief le jeudi 2 novembre à 18h. Donc les personnes qui sont dans le club Backseat, les personnes qui donnent 10 euros par mois, vous allez... Mettre dans votre agenda le 2 à 18h, au lieu de Backseat, il y aura une réunion débrief spéciale réservée aux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez assister à ce débrief avec toute l'équipe, etc., et bah prenez votre abonnement d'ici au jeudi 2. Une chaîne est aussi forte que le plus fragile de ses lives. Exactement, très bien dit. Le jeudi 23 novembre, nous organisons une émission spéciale à la Bellevilloise. La Bellevilloise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu à Paris. C'est un très grand lieu dans lequel on peut accueillir beaucoup de gens. Et c'est un bar, c'est un lieu festif, etc. Est-ce qu'une sponsor d'un lieu dans Paris dont le créateur est sensible à l'éduc-pot t'intéresserait? J'ai peut-être une piste dans ce goût-là. Ouais, bah carrément. Carrément, s'il est chaud, go contacter sur mon mail pro. Donc jeudi 23 novembre, émission spéciale à la Bellevilloise. Là aussi, les membres du club Backseat seront invités sur place à venir. Pas les autres. Backseat, c'est que à Paris. Non, c'est pas que à Paris. Il y aura des émissions ailleurs aussi, mais il faut qu'on ait des partenaires pour faire des émissions ailleurs. Donc encore une fois, ce sont les membres du club Backseat qui donnent sur KissKissBankBank qui auront accès à l'émission spéciale à la Bellevilloise sur place. Les premiers backstage vont arriver. Ce qu'on appelle les backstage, c'est les émissions. Enfin, justement, c'est les vidéos sur le. Bah, c'est un making of en fait. C'est les vidéos making of de l'émission. C'est les backstage. Donc ça aussi, ça va arriver. On va interviewer les techniciens, on va interviewer les chroniqueurs, programmateurs, etc. Moi, j'ai envie de vous montrer autant que possible comment est fabriqué et fabriquer l'émission. Et enfin, la réalisation des donation goals. Bah, ça, je vous l'avais montré. Et dans d'autres grandes villes. Alors, faire Backseat ailleurs qu'à Paris, c'est très très cher. c'est beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à l'intérêt que ça représente. Je m'explique. Si on faisait pas Paris, si on faisait pas Baxit à Paris, mais qu'on décidait de faire une émission à Rennes, on devrait payer le transport, l'hébergement et la location du camion pour tous les techniciens, tous les chroniqueurs. Donc c'est une émission qui coûte plus cher. Qui serait content qu'on fasse une émission à Rennes? Bah les Rennais. Les Rennais, ils seraient contents parce qu'ils pourraient venir dans le public, etc. Mais tous les autres qui sont pas à Rennes, qu'est-ce que ça change pour eux que l'émission elle soit à Rennes ou à Paris? Rien, ça reste Baxit pour eux. Donc c'est pour ça qu'on fait Baxit à Paris, parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des invités politiques de premier plan. On est en pleine semaine un jeudi soir. Et donc voilà. Et par ailleurs, c'est ça qui nous permet de baisser le coût. On fait des économies d'échelle en faisant Baxit toujours au même endroit. Donc je vous redis qu'une émission Baxit ailleurs qu'à Paris, c'est une fausse bonne idée. Ce n'est une bonne idée que si éditorialement ça se justifie et si un partenaire la finance. Autrement dit, autre manière de vous le dire, si vous voulez que Baxit ait lieu dans votre ville, arrêtez de le demander à Baxit, allez le demander à votre ville. Allez voir la mairie, frappez à la porte de votre mairie, dites à vos élus, hey, je connais une émission trop cool sur Internet, j'aimerais bien qu'elle ait lieu dans ma mairie, est-ce que vous voulez faire un partenariat? Voilà. Donc allez-y, allez-y, charge à vous d'organiser Baxit dans votre ville, charge à vous de trouver l'argent. Ou alors, autre solution, vous avez beaucoup d'argent et vous achetez une émission Baxit dans votre ville. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. C'est combien une émission? C'est 13 000 euros une émission. Et si tu rajoutes le défraiement de tout le monde et tout, à mon avis, tu peux monter à 15-16 000 euros. Donc si votre ville a 15 ou 16 000 euros, eh ben contactez-nous. Si vous avez beaucoup d'argent, donnez-le plutôt à Baxit pour pérenniser. Exactement.
Je possède des...
Non, 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 non. Bah non, justement. Donc voilà pour cette petite vidéo.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur
Et j'en profite pour vous remettre ça.
Baxit, c'est un talk show d'actualité politique qui, depuis maintenant 3 ans, réunit chaque jeudi des dizaines, des centaines de milliers de jeunes, en comptant les vues des replays, qui s'intéressent à l'actualité politique. Baxit revient pour une saison 3.
Vous avez été boursière, Madame Retailleau?
Non, je n'ai pas été boursière.
C'était juste une question.
J'ai une grosse moustache, mais j'ai une petite tête.
Salut les jeunes.
Abattez la citadelle!
J'aurais fait ni cette réforme, ni ce rapport avec les syndicats.
Sur ce plateau, l'immense bolchevik!
J'ai préparé une petite chronique, elle s'appelle 5 minutes pour faire ban ta chaîne.
Je peux taper ma grand-mère à Mario Party, je peux pas taper ma grand-mère à la lutte, c'est chiant. Tu vois.
Comment être un bon patron, Hugo?
Ah bah c'est...
Martinez.
Oui chef, discipline, angoisse profonde.
Et c'est quoi? Quoi couper?
Bon, une fois que c'est pas une MST.
Petit message au passage. Hein.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Tu c'est sais, n'importe t'avais... quoi.
Ah, moi je vois ma pièce. Hein.
Marlène Schiappa, on t'embrasse.
Cette émission Baxit est financée grâce à vos dons. N'hésitez pas à participer, vous aussi, à rendre possible la réalisation de cette émission chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur KissKissBankBank. Vous avez la possibilité de faire un don mensuel qui nous permet de continuer cette émission.
On n'a plus de lumière sur le plateau, mais ça va reviendre. Hein.
Je vais me faire ban Twitch avec vos conneries.
Fermez-la au bout d'un moment.
Je vais montrer mon t-shirt Jadot.
Je revends un t-shirt si...
Oh, je n'ai jamais vu autant de personnes, les amis.
J'ai déjà assez d'emmerdement depuis une semaine.
Okay. Je suis écolo.
Première chose.
Arrête.
Bonsoir. Merci à toutes et à tous.
Ah, c'était un teasing incroyable.
Oh, pardon, j'ai pas allumé mon micro. Et voilà pour cette petite vidéo teasing qu'on a mis normalement sur la chaîne Baxit en épinglé, tout ça, tout ça. Tchoum, tchoum, tchoum. Et ben j'espère que ça vous a plu et je continuerai à vous faire des points d'étape en stream comme ce soir, à vous expliquer où est-ce qu'on en est avec vos dons, etc. Est-ce que c'est cette vidéo que tu vas envoyer au CNC pour ta demande de subvention? Non, c'est une autre vidéo qu'on a faite spécialement pour le CNC. Bah rappelez-vous, on l'avait fait en live ensemble. Si un jour on vient à Baxit avec mon mari, est-ce qu'on peut prendre notre chien? Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Et non, ce ne sera pas la mascotte de l'émission, mais vous pouvez venir avec un chien. C'est possible. Question qu'on t'a sûrement déjà posée mille fois. Si tu reçois plus de personnalités de gauche que de droite, c'est parce que tu leur proposes plus. C'est parce que tu leur proposes plus ou parce que la droite accepte moins. Alors déjà, je ne sais pas où toi tu mets la barrière entre la gauche et la droite. Tu sais comme moi que c'est subjectif. Un militant du NPA pourrait considérer qu'on invite que des gens de droite. J'en sais rien. Enfin voilà, tu vois. Mais d'autre part, oui, pour répondre à ta question, non, on n'invite pas plus des gens de droite que des gens de gauche. Plus des gens de gauche que des gens de droite. C'est juste que oui, les gens de droite acceptent moins facilement de venir dans une émission. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller sur Internet, parce qu'ils n'ont pas envie de s'adresser à un public sur Twitch, pour un milliard de raisons. Mais on essaye, hein. On essaye. On continuera à essayer à recevoir des députés Les Républicains, à recevoir des têtes de liste, à recevoir des gens de la majorité, des ministres, etc. On continuera, évidemment. Me voilà VIP, je me sens de droite. Eh ben, félicitations à toi et merci pour ton don. Merci beaucoup. Pour être honnête, le trailer parle surtout à des gens qui connaissent déjà l'émission et les chroniqueurs. Alors moi, je pense que le trailer, il donne envie de plus découvrir cette émission. Le CNC, il donne beaucoup. Ça se passe comment ? T'en as déjà parlé en vidéo. Le Centre National du Cinéma soutient des créations sur Internet. Et ils peuvent donner jusqu'à 50 000 euros de soutien. Nous, l'année dernière, on avait obtenu 30 000 euros. Cette année, on va leur demander 50 000. Et je ne sais pas combien on va gagner. Hein. Ça, je ne sais pas. Le CNC peut nous donner entre 0 et 50 000. Franchement, je suis nouveau, je découvre Backseat par ce trailer, j'ai pas tout compris. Et bah justement, ça te donne envie de comprendre. J'espère. Je viens de découvrir le concept avec le trailer, je suis dégoûté de pas avoir connu cette émission avant, surtout vu les invités. Bienvenue à toi, n'hésite pas toi aussi à faire un don pour rendre cette émission possible. On a besoin de vos dons. Et on se maintient l'objectif d'avoir 30 000 euros par mois le plus vite possible, d'ici Noël si on y arrive, ce qui nous permet de garantir la pérennité de l'émission hebdomadaire, et ce sur plusieurs années en plus. C'est pour ça que moi je mets le paquet cette année sur les abonnements, parce qu'à partir du moment où on réussit à avoir la tête hors de l'eau avec 30 000 euros par mois, alors on aura moins besoin de demander de l'argent à chaque émission en permanence, etc. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le moment le plus fun de la production de Backseat que de demander de l'argent aux gens. Je préfère vous produire des émissions plutôt que de faire des calculs sur un tableur Excel. Est-ce que ce serait pas bien de faire une émission avec le CNC en première partie pour expliquer comment ça marche ? Eh ben, ils peuvent faire un before. S'ils veulent être partenaires d'une émission, ils peuvent payer, ouais. Comment ça se passe pour tous les manques actuels de septembre à décembre, janvier, ça fait quelques milliers d'euros en manque. Bah justement, nous, selon nos calculs, on arrivera à rentrer dans nos frais si on a 30 000 euros par mois à Noël. Et bah sinon, on fera moins d'émissions. On sera obligé de faire sauter plus d'émissions. Dès que je repasse le seuil de pauvreté dans le bon sens, ça va envoyer la moula. Merci à toi. JDG à Backseat, un rêve inatteignable. Non, ça pourrait être le cas un jour, mais il habite pas à Paris, JDG. Comment tu vas gérer les gens qui vont peut-être arrêter leur abonnement ? Eh ben, je vais croiser les doigts pour qu'ils soient compensés par des gens qui vont se mettre à s'abonner. Est-ce qu'il y a d'autres subventions possibles que le CNC ? Non, il n'y a pas d'autres subventions possibles que le CNC. Il y a des partenariats. Il y a des partenariats qu'on peut faire pour des biforts, pour des émissions spéciales, avec le Parlement européen, avec... Merci pour ce travail de titan à toute l'équipe. Courage. Merci, c'est très gentil, Silvano. Merci à toi. JDG dans Backseat, je croyais que l'extrême droite, c'était non, ou alors c'est juste pour les politiques. Joueur du grenier, il n'est pas d'extrême droite, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que non. En parlant des before, comment vous trouvez les partenaires? Vous les démarchez ou c'est eux qui viennent à vous pour faire leur pub? Les deux. Les deux. Il y en a certains qu'on va chercher, à qui on propose un before. Il y en a d'autres qui entendent parler de Backseat et qui nous contactent. Il y a des agences de com aussi, dont c'est le métier de rechercher des opportunités de communication pour leurs clients. La région Île-de-France ne subventionne pas. Non, la région Île-de-France ne subventionne pas, non. France Télévisions n'a pas une cellule pour des financements. L'Assemblée nationale, le ministère de la Culture, rien. Pas d'enveloppe. Non, il n'y a pas d'enveloppe Assemblée nationale ou ministère pour soutenir la démocratie. Et France Télévisions, la France Télévisions, ils ne financent des programmes que s'ils sont diffusés par France Télévisions. France Télévisions, c'est un diffuseur. France Télévisions ne donnera pas d'argent à un projet pour qu'il soit diffusé ailleurs que sur France Télévisions. Alors, ils l'ont fait pour Samuel Etienne, parce que c'est un journaliste de la maison. Donc, France Télévisions veut soutenir Samuel Etienne qui développe ses activités sur Twitch. Mais moi, je ne suis pas de France Télévisions, je ne travaille pas pour France Télévisions. Donc, il n'y a aucune raison que France Télévisions... ou alors ça a changé, ou alors France Télévisions a envie d'encourager la production audiovisuelle sur Twitch, mais techniquement, moi je suis un concurrent de France Télévisions parce que je suis un diffuseur autre que France Télévisions. Trouver 30 000 euros par mois, c'est plus dur que trouver 100 personnes par mois qui manifestent devant des studios pour qu'ils assurent gratos le tournage, la diffusion. Bah écoute, si tu veux militer pour qu'on arrête de payer le salaire des techniciens audiovisuels, je t'invite à y aller tout seul à ta manif. Mais moi, je veux pas faire des émissions gratos. Hein. Enfin, une émission, moi, je paye les gens, en fait. Enfin, on paye les salaires des gens. Est-ce que t'as pas eu l'occasion d'en discuter avec des députés? Bah si. Mais si, non, mais les députés, ils nous encouragent. Hein. Ils disent bon courage pour l'argent. Pas sur France 5, tu renommes l'émission C'est en ligne. Non. Où sera diffusé Backseat pour ceux qui ne peuvent pas s'y déplacer? Sur ton Twitch, je viens de te découvrir et trouve l'initiative super. Merci à toi Phil et bienvenue sur la chaîne. Backseat s'est diffusé sur ma chaîne ici sur Twitch tous les jeudis à 18h30. C'est en live. Franchement, je trouve ça super edgy de respecter le droit du travail. Ouais, ce serait mieux si Backseat était une émission à l'arrache où on paye pas les gens. C'est vrai que ce serait moins cher du coup. Mais non, ce serait pas mieux, non. Après Hollande, y aura-t-il d'autres figures de la vraie social-démocratie comme Carole Delga ou Rossignol? Ouais, c'est prévu. C'est prévu. On va recevoir plein de gens, vous savez, on va faire plein d'émissions. Hein. Y aura un invité politique chaque semaine, donc... Donnez-leur une tribune. Alors, Backseat n'offre pas de tribune. Ça, je suis désolé. Backseat n'offre pas de tribune. Backseat fait des interviews politiques. Les tribunes, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un invité politique se propose pour venir ou c'est vous qui démarchez à chaque fois? Il est déjà arrivé que des personnalités politiques demandent à venir dans Backseat, mais c'est jamais les personnes que j'ai envie d'avoir dans Backseat. Il y a une décorrélation entre l'offre et la demande, on va dire. Mais c'est normal, c'est le jeu. Est-ce que tu t'es renseigné au CNC pour leurs aides? Oui, on a fait une demande au CNC. Combien de temps à l'avance programmez-vous vos invités politiques? On programme les invités politiques en général dans la semaine, parce que Backseat est une émission d'actualité. Donc on essaye autant que possible de coller à l'actualité de la semaine et du coup on ne peut pas prévoir un mois ou deux à l'avance. Ça dépend des invités. Il y a certains invités qu'on peut prépositionner pour une émission dans 2-3 semaines, mais c'est à reconfirmer la veille ou l'avant-veille, parce qu'il nous arrive aussi souvent d'avoir des invités qui décommandent. Il y a des invités qui disent ouais c'est ok, je serai là à Backseat la semaine prochaine, et finalement quand on les rappelle, ah non désolé, en fait j'ai un truc. Malheureusement on se prend des vents. Est-ce que ça génère pas trop de stress? Si, ça génère énormément de stress. C'est toutes les semaines. Backseat, c'est toutes les semaines. Alors, je vous dis ça, la semaine prochaine, il n'y aura pas Backseat. Parce que parfois, on fait des pauses. Nos salariés aussi ont le droit à des vacances. Donc, parfois, on fait des pauses. En l'occurrence, la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires, on fait une pause, il n'y aura pas Backseat. Mais à la place, il y aura un live réservé aux donateurs. Un live avec l'équipe de Backseat. Donc vous allez pouvoir rencontrer l'équipe de Backseat, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, on va discuter, etc. Qui est-ce que tu contactes quand tu veux inviter un politique ? Est-ce que tu as un genre d'annuaire ? Inviter des gens sur un plateau, ça porte un nom, ça s'appelle la programmation. Et il y a des gens dans l'équipe de Backseat dont le métier est de faire la programmation. Un programmateur dans les médias, c'est quelqu'un qui passe des coups de téléphone, qui trouve des numéros de téléphone, qui les demande, qui se démerde, qui contacte les mairies, qui contacte les cabinets de députés, les cabinets de ministres, etc. pour négocier une venue sur un plateau. Tous les donateurs ou juste ceux du club ? C'est tous les donateurs à plus de 10 euros qui seront invités la semaine prochaine. Donc si vous voulez voir la semaine prochaine l'émission débrief où on discute ensemble, il faut que vous fassiez un don d'au moins 10 euros par mois. Est-ce qu'il y aura une rediffusion du live même si c'est pour les abonnés ? Non, il n'y aura pas de rediffusion du live. Si tu parles bien de la réunion là, l'émission débrief. L'émission débrief remplacera une émission Backseat ? Non, ça remplacera pas une émission Backseat. Ça aura lieu en lieu et place d'un Backseat qui de toute façon était prévu de ne pas avoir lieu. Hop, pardon. Il n'y a pas les QAG aujourd'hui. Les QAG à l'Assemblée nationale, c'est le mardi. Donc voilà. Et demain, je vous rappelle qu'on reçoit Sandrine Rousseau. Si vous avez une question à poser à Sandrine Rousseau, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Le mail, c'est backseat.rs@gmail.com et c'est sur ce mail-là que vous pouvez envoyer une vidéo de vous en train de poser une question à notre invité politique. Ça aussi, c'est une nouveauté de cette saison. Vous aviez été nombreux à le demander l'année dernière. Ce serait bien qu'on puisse poser des questions aux invités politiques. Et bah du coup, dans cette saison, on vous propose de le faire. N'hésitez pas. Et si vous avez encore des questions à me poser, bah surtout n'hésitez pas. Moi, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur Backseat, sur son financement, sur son organisation, sur sa technique, sur sa programmation. Est-ce que vous invitez des personnages politiques qui vont à l'encontre de vos idées ? Oui. Oui, absolument. À moins de ne vouloir une paye correcte que pour une partie de l'équipe dans un monde capitaliste, c'est plus facile de trouver des salaires en manifestant avec les viewers chaque mois pour forcer tour à tour des studios à vous prendre en charge. Mais fais-la ta manif, hein. Je sais pas très bien devant quel studio tu vas aller. Vas-y, organise une manif si tu veux devant un studio pour obtenir de leur part qu'ils organisent une émission Backseat gratos. Si tu veux. Ça a dû marcher une fois au moins dans l'histoire. Moi je veux bien faire une manif avec Jean, mais devant un bar à bière de préférence, je suis bien d'accord. Enfin, quand je dis fais-la ta manif, ne parle pas de Backseat, s'il te plaît, dans ta manif. Si tu vas vraiment faire le piquet de grève devant des studios, évite de... Enfin voilà, tu viens pas de notre part. C'est de ta propre initiative. Moi, j'aurais un million de questions sur la production, mais pas sûr que ça intéresse tout le monde. Bah écoute, essaye toujours. Hein. Qu'aurait fait Charles de Gaulle ? Bon, une émission sur Twitch. Charles de Gaulle, il serait abonné. À mon avis, Charles de Gaulle, il aurait fait partie du club Backseat. Moi, je pense qu'il faut faire un référendum sur le Backseat comme l'ont fait les Anglais. Pas mal. Manif pour une tournée générale. La bière de la manif, c'est obligatoire comme la merguez. C'est la fédé qui l'impose. Je vous ai compris, il dirait. Ah ouais, De Gaulle, il aurait compris. Hein. Est-ce qu'on imagine le général De Gaulle manger des nems ? Vous imaginez, il a jamais mangé de nem de sa vie, le pauvre. Vive la France, vive la République et vive Baxit, abonnez-vous. L'aventure Webedia, le stream, montre bien que ce n'est pas simple pour produire des émissions sur Twitch. Effectivement, le stream était l'une des dernières web TV multigaming de Twitch. Et il n'y a effectivement pas de modèle économique viable pour des web TV sur Twitch. Enfin, personne n'a réussi à la trouver, sauf e-sport. Mais l'e-sport, c'est particulier. Baxit en bourse pour financer ? Et la bourse, c'est pas de l'argent magique. Hein. Les gens qui achètent des actions, ils attendent un retour sur investissement. Baxit, on génère pas d'argent. Hein. Force à toi, mon t-shirt Baxit rose fait des gens vieux. Ah, let's go. Go placement de produits genre bonbon fini. Après, vous savez, sur les partenariats à Baxit, on va pas se mentir, c'est difficile de trouver des partenaires pour Baxit. Hein. Il y a plein de partenaires qui veulent pas associer leur image de marque à la politique. Moi, j'ai discuté avec des agences, j'ai discuté avec des directeurs de la communication dans des boîtes, etc. Ils m'ont tous dit « Jean, t'es gentil, mais nous, on veut pas que notre produit ou notre marque apparaisse dans une émission politique. » Je peux le comprendre. Enfin, c'est une stratégie de positionnement sur un marché. Ils disent, bah, non, on n'a pas envie de. Donc, Baxit, c'est une émission qui est plus dure à financer que si c'était une émission de sport ou une émission de feel good ou une émission de je sais pas quoi. C'est voilà, c'est un milieu, c'est un projet casse-gueule et tout. Donc, non, c'est difficile. Hein. Après, je me dis que tu as atteint le plafond du nombre de viewers en France vu que c'est de la politique. Hassanabi, aux USA, il a genre 10 000, mais les Américains, ils ont 300 millions de gens. Oui, alors que nous, c'est 70 millions. Ouais. Popcorn, par exemple, doit avoir beaucoup moins de problèmes pour les parts. Popcorn, je crois que c'est pas si facile que ça non plus. Hein. Faut pas croire que Popcorn, il roule sur le pognon, que tout est facile et tout. Hein. Eux aussi, ils ont des difficultés, hein, bien sûr. Même sans parler d'association d'idées, ton public est peut-être moins perméable à la publicité, je sais pas. Ça dépend de la pub, ça dépend pour dire quoi, ça dépend pour faire quoi, ça dépend. Fais-toi financer par le kebab à côté de la salle. À mon avis, le kebab d'à côté, il a 5 euros à mettre. J'ai une question bête, mais pourquoi ne pas avoir créé une chaîne Baxit séparée ? Bah parce qu'on aurait aucun viewer. Ça fait 8 ans que je suis sur Twitch, ça fait 8 ans que je construis une communauté, une audience. C'est pas pour repartir de zéro pour le plaisir. Ah non, ça on peut pas. Hein. Après, les partenariats avec le Sénat ou le Parlement européen, c'était bien. Ouais. Oui, carrément. Domingo n'a pas de chaîne Popcorn. Non, effectivement. Est-ce que tu as des retours sur l'efficacité des before ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous allez multi-streamer Baxit suite à l'autorisation de Twitch ? Je sais pas, on n'a pas encore eu la discussion. Je sais pas si on va multi-streamer Baxit. Je suis toujours un peu dubitatif sur le multistream. Vous en pensez quoi, vous ? Pensez que Baxit devrait être aussi sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube et tout ? Ça fait plus de pépettes ? Faudra le démontrer, ça. Après, on pourrait commencer par YouTube. C'est vrai, on pourrait commencer par YouTube. Je vois mal comment diffuser sur TikTok et sur YouTube. Il y a les replays, donc pas forcément worse. Non, j'en sais rien. Il faudrait qu'on essaye. Pour Backseat qui utilise moins le chat, peut-être que c'est pas con, mais t'as le risque de te séparer de l'audience. De séparer l'audience. Ouais, ouais, non, je sais pas. Je me dis que c'est dommage de passer à côté de quelqu'un qui est sur YouTube et pas sur Twitch et qui du coup voit la notification et il peut cliquer dessus. Courage aux modos qui vont devoir gérer les commentaires YouTube. Bah, de toute façon, si on fait un multistream sur YouTube en même temps que sur Twitch, on va couper les commentaires sur YouTube. De toute façon, on lit pas le chat de YouTube, donc... Tu peux juste lancer sur YouTube en bonus, ouais. Et pourquoi pas TikTok? Bah, j'en sais rien, j'ai jamais regardé de live sur TikTok, donc... Non, je sais pas. Je suis encore une fois assez dubitatif. Il y avait Usul qui était dans le chat tout à l'heure. Je vous propose qu'on fasse... Moi, je vais m'arrêter là. On va faire un raid chez Usul. On va faire un raid chez Usul. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour vos questions sur la FAQ politique. Merci pour votre attention sur le point d'étape, le bilan d'étape de financement de l'émission Backseat. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Je vous envoie donc en raid chez Usul, que je remercie d'avoir été là tout à l'heure dans le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve demain à 18h30 pour Backseat. Hâte de vous y voir et passez une bonne soirée en compagnie d'Usul. Ciao tout le monde. Bye bye.
Tac, voilà.